organisée par le GEPEM, association que je vais présenter là dans quelques secondes pour vous présenter un petit peu le cadre, le pourquoi et beaucoup aussi le comment de la matinée. Pour commencer, donc quelques petites informations pratiques. Donc on avait prévu donc de commencer là à 9h, de terminer à midi. Si certaines personnes, pour des raisons personnelles X ou autres, ne se retrouvent pas du tout dans ce qui est fait ce matin et que ça vous dérange, à nouveau, vous gérez votre temps. Moi, ça ne me choquera absolument pas qu'il y en a qui sortent, qui rentrent. Et puis, dès lors que ça se fait dans le respect des autres et puis qu'on essaie d'être le plus discret pour ne pas déranger les autres. À nouveau, certaines personnes sont venues déjà s'excuser parce qu'ils partiront un peu plus tôt. Ils sont déjà, bien sûr, excusés. On comprend que tout le monde ait des contraintes. Et déjà, on est très heureux de réunir autant de monde ce matin. D'un point de vue pratique, donc on a derrière la porte qui vient de s'ouvrir, la deuxième porte à gauche. Voilà quelques clandestins, justement. Donc la deuxième porte à gauche, vous trouverez des toilettes. Donc à nouveau, c'est pareil, l'accès aux toilettes, café, dès lors que vous ne dérangez pas, tout ça, vous y allez bien sûr quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre une pause ou de lever le petit doigt pour le faire. Même si c'est sûr que quand vous êtes assis là pour y aller discrètement, ça va être balèze. Alors on attend les derniers.
Essayez d'aller chercher quelques chaises. C'est bon, non ? Il y en a encore trois là.
Alors, rapidement, en 2-3 minutes, même pas, dans quel cadre cette réunion a lieu ? Alors, donc cette réunion est organisée par le GEPEM, qui est le groupe de l'Est parisien de l'école moderne, qui est le groupe de pédagogie freinée au niveau du 77. Donc la pédagogie freinée, je ne vais pas forcément en faire un grand historique ce matin, ce n'est pas tellement l'objet et le but de ce matin. Vous êtes plus venu dans l'idée d'avoir un peu des pratiques, des billes, etc. Ça n'empêche que toutes ces billes, on les donnera aussi dans un cadre donné. À nouveau, tout ce que l'on fait, ce n'est pas uniquement un certain nombre de pratiques que l'on plaque comme ça, elles sont mises en place avec un cadre bien donné, des choses bien réfléchies qui se situent dans le cadre, pour nous, des courants de pédagogie freinée, pédagogie institutionnelle et pédagogie coopérative. Pédagogie coopérative, l'OCCE, etc. Donc ces trois courants qui actuellement sont relativement très proches et vous retrouvez parfois les mêmes personnes. En tout cas, c'est des personnes, les trois courants dont je viens de vous parler, pédagogie freinée, pédagogie institutionnelle, OCCE, sont des personnes qui travaillent souvent et sont amenées souvent à être en contact. Voilà. Donc l'idée de ce matin, c'est un petit peu de balayer tout ça et puis de vous amener un certain nombre de pistes et de réflexions par rapport à ça. En tout cas, ceux qui organisent ce matin, c'est donc le GEPEM. Donc nous, on est le sous-groupe de l'ICEM. Donc l'ICEM, c'est l'Institut coopératif de l'école moderne, c'est le mouvement freiné au niveau national. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que le GEPEM ? C'est pas un petit groupe mystique ou je ne sais trop quoi, c'est tout simplement, c'est des enseignants. Du terrain, de maternelle, d'élémentaire, c'est des profs d'UFM, c'est des maîtres formateurs, c'est différentes personnes. Certains qui sont au GEPEM, donc dans l'association, on est là depuis une quinzaine d'années. D'autres, ils y sont là depuis un an ou deux ans parce qu'ils étaient PE de l'année dernière et puis ils sont restés et puis ils sont avec nous. Voilà, le GEPEM, c'est tout simplement ça. C'est une association de plusieurs instits qui, en gros, l'objet du GEPEM, le but, c'est dans les statuts, un des premiers statuts et des plus importants, c'est faire travailler ensemble des collègues désireux de mettre en place des pratiques coopératives dans leur classe, tout simplement. Parce que via l'institution, on n'a pas toujours le temps. Avec ses collègues, comme on dit, nul n'est prophète dans son pays. Ce n'est pas toujours évident de s'entendre avec les collègues de son école. Et puis, c'est toujours intéressant, à un moment, de croiser les regards aussi avec des gens d'autres écoles, d'autres circonscriptions et d'autres niveaux. Voilà. Grosso modo, comment l'association fonctionne, c'est des réunions qui ont lieu, en gros, une fois par mois, une fois tous les deux mois, le mercredi après-midi. On se réunit ici. Cette année, on avait comme thème l'écriture, comment on peut faire écrire les enfants en classe, pourquoi on les fait écrire, à quoi ça sert, et puis à nouveau d'échanger, de travailler aussi de façon pratique là-dedans. Et deux fois par an, on organise des rencontres, des journées de rencontres qu'on essaie d'ouvrir à un peu plus de monde, un petit peu comme ce matin, et souvent qu'on fait aussi à la journée, qui nous permet, par exemple, la dernière rencontre qu'on a eue au mois de novembre, on avait invité un chanteur pour enfants, Alain Schneider, qui nous a fait un peu découvrir ses chansons, qui nous a fait écrire aussi et inventer une chanson avec lui, etc. Donc en articulation avec le thème de l'année. Donc l'association, c'est aussi, donc dans les statuts, l'idée c'est de promouvoir les pratiques coopératives, les pratiques à visée coopérative, donc via l'achat de matériel important que l'on met en prêt pour les adhérents. Donc on a de nombreux fichiers, des documentations, des livres, du matériel que l'on peut mettre à disposition, parce que souvent ce type de pratique, notamment pour travailler en petits groupes, on a besoin des fois de pas mal de fichiers, et pour démarrer ça coûte de l'argent. Donc les premières années, on a de quoi faire fonctionner largement plusieurs classes avec du matériel que l'on prête à nos adhérents. Donc c'est des choses qu'on a investi, dans lesquelles on a investi pour pouvoir justement à des jeunes ou des moins jeunes, en tout cas des personnes soucieuses de commencer là-dedans, d'avoir déjà le matériel suffisant. Et l'idée, c'est aussi après d'organiser ce genre de matinée, c'est-à-dire un moment de faire connaître et puis d'échanger, parce qu'on ne veut pas non plus vivre en vase clos. L'idée, c'est pas uniquement qu'on soit entre nous, c'est à un moment donné faire part à d'autres collègues de ce qu'on fait, et puis que d'autres collègues viennent un peu nous dire ce que vous faites. Et puis là, c'est vrai qu'on est heureux de voir autant de personnes finalement intéressées sur ce genre de problématique et souhaitant venir échanger un petit peu avec nous ce matin. Voilà. Donc c'est une association qui est ouverte à tous. Moi personnellement, j'ai pas souhaité ce matin faire d'adhésion ou quoi que ce soit pour pas mélanger les genres et que ça soit pas non plus une réunion de propagande pour faire venir les gens. Les personnes intéressées, il y a le site du GPM, normalement dans tous les courriers, il a dû les affiches, les machins, chaque fois l'adresse apparaît dessus. Vous avez les réunions, les moments où vous pouvez nous joindre, etc. Donc les personnes après désireuses cette année, peut-être l'année prochaine, dans 5 ans, j'en sais rien, désireuse de nous rejoindre, on vous accueille bien sûr à bras ouverts, sachant que je mets là le tout petit bémol, là cette année, en tout cas moi, en tant, oui, je ne me suis pas présenté, donc je suis le président de l'association. En tant que président de l'association, je souhaiterais que ce soit vraiment une association où on n'y rentre pas comme dans un moulin, c'est-à-dire c'est pas une association où je veux du matériel, où je veux piocher plein de choses, et puis puis je viens une fois, et puis je viens plus après. Après, que je vienne une fois et puis que je vienne plus parce que ça ne m'intéresse pas, pourquoi pas. Mais à nouveau, c'est une pédagogie et une association. On souhaiterait qu'il y ait vraiment des gens qui soient relativement engagés et puis qui viennent avec vraiment intérêt et de façon régulière dans l'intérêt de tout le monde. Parce que d'avoir des gens qui viennent en coup de vent, c'est inintéressant finalement pour tout le monde. Donc ce matin, l'idée, c'est on présente le maximum de choses. Si des personnes par la suite sont intéressées, on vous ouvre grand la porte. À nos prochaines réunions, n'hésitez pas à venir travailler avec nous, sachant qu'au mois de juin, on a notre assemblée générale et le fonctionnement de chaque année, la façon dont le rythme des réunions, où est-ce qu'on les fait, le thème des réunions est décidé par l'ensemble des personnes présentes à l'AG. D'accord ? C'est pas une personne qui décide pour tout le monde ou voilà. C'est vraiment le fonctionnement coopératif qu'on essaye de mettre dans nos classes, on essaye aussi de se l'appliquer à nous-mêmes. Voilà pour la petite parenthèse et la petite présentation du cadre de ce matin. Un petit remerciement quand même tout particulier à Monsieur Morin, l'inspecteur académie adjoint, qui depuis 2 ans accepte avec grand plaisir et en plus nous sollicite pour le faire, pour diffuser l'information de ce qu'on fait auprès de toutes les écoles. C'est vrai qu'il y a 2, 3, 4 ans et encore avant, ce genre de réunion c'était uniquement des PE2. Parce qu'on touchait via Jean-Claude, via les maîtres formateurs, on touchait pas mal les PE2. Maintenant, via M. Morin, qui est quelqu'un, et M. Marchal, qui est bien sûr au-dessus, l'inspecteur d'académie, qui sont des gens très ouverts, ça nous permet de toucher davantage de gens et puis de proposer d'échanger avec davantage de monde. Donc, grand remerciement à tous les deux qui, par leur ouverture, permettent l'organisation de telles matinées. Parce qu'après, pour toucher tout le monde, c'est très difficile sans un appui institutionnel. Voilà. Donc, ça me permet de faire la petite liaison avec l'institution. On n'est pas du tout en marge de l'institution. L'ICEM est une association qui est reconnue par l'Éducation nationale et qui touche des subventions de l'Éducation nationale. Et le GPEM, on ne travaille pas en marge de secrète, et ce n'est pas une réunion secrète, on ne mettra pas les rideaux noirs tout à l'heure. Je veux dire, la réunion a même été diffusée et été grandement relayée par l'inspection d'académie. Voilà. Est-ce que par rapport à ce cadre-là, il y a des remarques, des questions, des choses à dire ?
C'était très clair.
Alors, je laisse la parole à la collègue. Bonjour.
Bonjour.
Je cherchais à passer mes persistes.
Je m'appelle Mehdi.
Je m'appelle Mehdi.
Et je suis... Enchanté, installe-toi tranquillement.
Alors, c'est impressionnant pour elle. C'est...
Alors, ce que je vous propose aussi maintenant de façon peut-être un peu rapide, via un document qu'on va faire tourner et vous donner, c'est vous présenter un peu qu'est-ce que c'est qu'une classe coopérative, qu'est-ce que nous on entend une classe coopérative, et un petit peu présenter Freinet, mais très rapidement par rapport à un de ces textes qu'on appelle les invariants, qui est une sorte de petit code, là, le code de la route, etc. Bah, lui, il s'est fixé un certain nombre d'un code où il a écrit un certain nombre de préceptes, de petites choses qui lui paraissent importantes à se rappeler lorsqu'on fait la classe. On ne va pas tout le lire et tout le regarder. Il y a la photocopie, c'est fait pour être lu et regardé plus tard. La seule chose, j'aurais pas dû donner les documents avant parce que là vous allez plus m'écouter du coup, mais une chose très importante pour ce matin, on n'a que 3 heures. Ce qu'on a prévu de faire, ce qu'il y avait sur l'affiche ou ce qu'on a prévu ce matin, ça peut être fait en 3 heures, comme ça pourrait pu être fait largement en une semaine, ou comme ça peut être fait en une année de travail dans un groupe par des réunions, etc. On a fait le choix ce matin, soit on ciblait quelque chose et on passait 3 heures dessus, soit on faisait le choix, et je pense que ça correspond plus à vos attentes, de balayer un certain nombre de choses. Par contre, dès lors qu'on a fait le choix de balayer un certain nombre de choses, on va bien sûr pas approfondir chaque chose. En 3 heures, ça nous sera impossible. Donc on va aller assez vite, vous donner un peu un aperçu de pratiques, de pistes, de réflexions que vous pourrez mener seul, que vous pourrez mener en équipe et que vous pourrez, si vous le souhaitez, mener après en parallèle avec nous, si vous le souhaitez par la suite. Voilà, donc l'idée de ce matin, c'était ça, d'amener, pas un maximum non plus, mais d'amener un certain nombre de choses assez importantes à savoir par rapport aux pratiques coopératives pour pouvoir commencer à mettre ça en place humblement dans sa classe, commencer ou continuer ou approfondir selon vos niveaux par la suite. Tout le monde a eu le document ?
Tout le monde.
Alors, souvent, quand on fait des interventions comme ça sur la pédagogie Freinet, on va parler d'un certain nombre de valeurs, l'autonomie, le plaisir de venir, et puis, ou la correspondance, par exemple. Puis il y a des gens qui me disent, ah mais oui, mais par exemple ça, ou le journal, ou je le fais déjà, moi, dans ma classe, donc est-ce que je fais finalement de la pédagogie Freinet ? Alors, après, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a d'un côté les pratiques, et puis d'un autre côté, l'esprit, j'ai envie de dire l'aspect citoyen, l'aspect politique qu'il y a derrière ces pratiques. Ce qu'il y a derrière la pédagogie Freinet, la pédagogie coopérative, c'est avant même les pratiques, un esprit et une vision très politique de la chose. Pas politicienne du tout. L'idée, c'est pas de faire de la politique telle qu'on l'entend actuellement, toute la semaine, tous les soirs, et encore plus avec les régionales actuellement, mais avec une vision très politique. Et pour résumer, en gros, Freinet, peut-être la différence avec d'autres collègues à côté, c'est que lui, à un moment, il s'intéressait non pas, bien sûr, à l'enfant, mais aussi à l'adulte, ou en tout cas la personne qu'il est en train de devenir. Et là où ça devient politique, c'est en gros l'adulte qu'il va devenir, et ça fera la société de demain. Donc souvent, la grosse différence entre des personnes qui disent moi je fais ça aussi dans ma classe et puis est-ce que finalement je fais de la pédagogie Freinet, un des aspects qui va faire en tout cas la différence très nette, c'est qu'en classe Freinet, on ne fait pas les choses pour de faux. On ne le fait pas dans le cadre d'un projet pédagogique où on va faire un journal. C'est on fait un journal parce que dans la classe, à un moment donné, ça s'est révélé vraiment nécessaire et c'est devenu un outil pour les enfants, pour informer les parents, pour informer les collègues. Vous voyez ? Je fais de la correspondance parce qu'à un moment, bah, dans notre réseau d'enseignants, etc., s'est révélé le besoin, la nécessité ou la possibilité de faire une correspondance. Et non pas comme, ah bah tiens, j'ai vu les programmes, c'est intéressant, je plaque telle pratique, je plaque le journal scolaire, je plaque le conseil, je plaque telle chose, parce que ça me permet de travailler les programmes. En pédagogie freinée, là, ça va plutôt partir du bas, de plutôt partir vraiment d'un besoin et de quelque chose de vrai. De quelque chose qu'on va faire pour de vrai. C'est-à-dire qu'il va être vraiment quelque chose dont les enfants ont besoin, dont la classe va avoir besoin, pas forcément tous d'ailleurs, mais quelque chose qui fait partie du vécu. Voilà. D'où l'importance, et on va le travailler tout à l'heure, d'avoir notamment le moment du conseil dans la classe, qui va être un temps où justement on va pouvoir parler, échanger, faire émerger des besoins, voir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Voilà. Donc la grosse différence entre j'ai plein de pratiques et la pédagogie freinée, ça va être l'aspect, une vision relativement politique de la chose, mais avec un grand P au sens étymologique du terme, je m'intéresse à la vie de ma cité. Je suis en train de former les futurs citoyens. Après, quelles que soient les idées politiques, je veux dire, nous, on n'a pas, l'idée, c'est pas de former les enfants à nos idées politiques à nous. C'est au contraire même. C'est de former des enfants qui seront capables d'avoir assez de jugement pour avoir leur idée politique à eux. Et quand je dis à nouveau politique, c'est le sens polis de la grecque, s'intéresser à la vie de la cité. Voilà. Ce qui n'est pas inintéressant quand on s'intéresse à pourquoi les collègues ont fait de la pédagogie freinée. Alors vous allez dire que c'est en vase clos. Mais beaucoup ont connu, dans leur enfance, en tout cas moi, je repense à moi, j'ai eu un instinct à un moment en CM2, où on faisait de la pédagogie freinée. Je m'en suis rendu compte que très récemment d'ailleurs. Je n'avais pas conscience jusqu'à longtemps qu'il y avait un lien, bon bref. Et comme par hasard, ben, j'étais un de ceux au collège, à votre avis, qui très rapidement les exposait, j'adorais ça, parce que j'en avais fait plein. À votre avis, ben, très vite j'ai été délégué, et vous voyez aujourd'hui où je me retrouve. Hein. Alors plus ou moins par hasard, parce que, pas ben, plus ou moins. Au début, donc c'est Nathalie, ma femme, qui a eu Jean-Claude à l'UFM. Donc le jour où elle m'en a parlé, moi j'ai dit, oh là 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 là, c'est quoi ce truc où ils font, laissent travailler les enfants tout seuls. C'était au moment où je passais mon CAFIPEM pour être maître formateur, où j'étais à fond dans la pédagogie, machin. Et c'est quoi cette pédagogie où tout part des enfants? Mais c'est pas possible. Je veux dire, il faut que nous, on a quand même des progressions, il y a un programme. Bon, elle m'a botté les fesses pour que j'y aille. Et puis vous voyez, 10 ans après, où je me retrouve. Tout ça pour dire que ce genre de choses, moi je vais absolument jamais dans mes réunions chercher à convaincre qui que ce soit, que je suis persuadé que soit on porte en nous cette fibre pour la pédagogie coopérative, ou soit on ne l'a pas. Moi, c'est pas quelque chose qu'on va acquérir par magie, c'est quelque chose généralement qu'on a au fond de nous dans ce qu'on est, et qu'on a envie de transmettre, pas que de transmettre d'ailleurs, parce que justement la pédagogie se prenait, c'est plus que transmettre, c'est à un moment faire que les enfants trouvent leur chemin, etc., par eux-mêmes, etc. Donc ça, on l'a ou on l'a pas. Après, moi, je sais que ça a été très enfoui pendant très longtemps. Après, ça s'est révélé par des petites choses à droite, à gauche. Et puis, ben, voilà, et puis à un moment, maintenant, ça a pris plus d'ampleur. Et puis finalement, par rapport au programme, on en reparlera à nouveau tout à l'heure, finalement, avec le recul, il n'y a strictement aucune contre-indication à faire de la pédagogie freinée et à suivre les programmes. Même, j'ai envie de dire, au contraire. Moi, c'est depuis que je développe de plus en plus ces pratiques-là que j'ai l'impression de vraiment appliquer les programmes. Avant, je les appliquais, je les faisais. À la fin de mon année, j'avais un bon tiers qui était à côté de la plaque. Et puis un autre tiers, j'avais l'impression que je n'avais rien fait pour eux, parce qu'ils savaient déjà tout faire au début de l'année. Donc un tiers pour qui je n'avais rien fait, parce qu'ils étaient déjà trop bons, ou bon, bref. Et puis un tiers où j'avais l'impression que j'avais beau faire toutes mes séquences, mes machins, mes trucs, ils n'avançaient pas plus. Avec ce genre de pratique, eh ben, j'ai l'impression, maintenant, je n'ennuie plus ceux qui sont les plus débrouillards et ceux qui sont le plus en difficulté. À défaut de les aider, de les sortir de la mouise, j'ai l'impression de m'en occuper, ou en tout cas d'y être plus sensible et d'y apporter des choses qui correspondent plus à leurs besoins. Je n'ai pas la prétention, et on n'a pas la prétention d'avoir une méthode miracle qui marche mieux, mais en tout cas peut-être qui respecte un peu mieux. Après, ça n'a pas forcément les effets miraculeux, etc., magiques, mais ça n'empêche qu'on détruit sûrement moins dans nos classes d'enfants qui peuvent l'être, ou en tout cas que moi j'ai pu en détruire au début de ma carrière sans faire trop attention. Par ce fonctionnement trop. Voilà. Donc maintenant, j'ai vraiment l'impression, justement par ce type de pratique, d'aller à fond dans les programmes, d'aller bien plus loin, justement, et avec plus d'intelligence que je pouvais le faire au début de ma carrière. Voilà. Le document, on ne va pas le reprendre. Là, ça vous donne, si vous, ceux qui souhaitent, un certain nombre de pistes et la globalité de ce que c'est qu'une classe coopérative, avec l'autonomie, la responsabilisation, la prise d'initiative. Ceux qui veulent se lancer, parfois, ça vous donne un peu les phrases pour faire vos projets, vous. Après, tout ce qu'on vous donne, c'est un truc, n'hésitez pas à piocher, il n'y a pas de droit d'auteur, au contraire. Hein. Utiliser, réutiliser, voilà. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et en dessous, c'est le fameux code de Freinet qui donne un certain nombre de... Je ne sais pas si c'est le mot précepte ou d'axiome. Nul, par exemple le 8, nul n'aime tourner à vide, agir en robot, c'est-à-dire faire des actes, se plier à des pensées qui sont inscrites dans des mécaniques auxquelles il ne participe pas. Ça, c'est ce que je faisais avant. J'avais mon manuel en lecture, en géographie, et puis on suivait. Et l'enfant, il n'y avait même pas que lui qui était robot. Hein. Dire, moi, j'étais le premier robot de la classe. Et je prenais aucun plaisir à le faire. Donc, vous lirez ça, vous verrez. Lisez-le sous l'angle pour vous, et lisez-le sous les enfants, et vous verrez, il y a combien de choses qui décrivent pleinement ce qu'on fait tous. Parce que même moi, étant là-dedans, il y a encore des choses où je suis encore là-dedans. Et vous verrez qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Alors vous allez dire, mais il n'a rien inventé. Ben oui, mais au moins, il a eu le mérite de l'écrire, et de dire... Et c'est pas inutile, des fois, de se rappeler un certain nombre de petites choses comme ça. De petits... comme le 1, tout simplement. L'enfant est de la même nature que nous. Combien de fois on impose des choses aux enfants qu'on ne supporte pas nous-mêmes. Voyez comment on est, vous êtes, on est dans des réunions d'instit quand vous avez vos animations PEDA. On va papoter, faire autre chose, etc. Et que quand le lundi matin, on retourne en classe et qu'on voit un gamin qui fait même pas un dixième de ce qu'on a fait en animation PEDA et qu'on lui saute dessus, voilà. Et ils sont comme nous. Alors, voilà, c'est tout le paradoxe. Alors, je voulais vous donner quand même, avant de commencer, alors le programme de ce matin, on voulait travailler avec vous sur un certain nombre de points bien concrets qui correspondaient à peu près à ce qu'il y avait sur l'affiche. Le premier point, c'était voir avec vous, concrètement, comment on peut favoriser l'implication et l'autonomie des enfants. Un, comment, et deux, concrètement, avec des exemples de ce qu'on fait nous. Sachant qu'à nouveau, on va prendre 20 minutes, une demi-heure pour le faire. C'est beaucoup trop court pour approfondir ça. Hein. Donc, on va vous donner quelques repères, des documents par rapport à ça. Voilà, après, je veux dire, nous, on est... Par rapport à ce que je disais, on n'est pas abouti. Hein, lorsqu'on arrive dans l'association, le critère, c'est pas d'être abouti et puis d'avoir une certification et on rentre. Là, généralement, celui qui aboutit dans l'association, il sort. Parce que, et ce qui est le cas, moi je le dis à moitié en rigolant, on a un collègue qui a lancé l'association, il est arrivé à un moment, pas forcément d'aboutissement, mais à un moment où il y avait la nécessité aussi de sortir parce que bon, ça ne lui apportait plus. Voilà. Donc nous, on préfère, et tous ce qu'on est, on est des gens qui se posent qui nous posons des questions. Sans arrêt, moi, nos stages, on ne vient pas se complaire dans ce qu'on fait. J'ai oublié tout à l'heure, on a aussi une liste d'échanges où on discute entre nous, on peut se poser des problèmes, etc. On est tous à avoir de gros soucis et se poser beaucoup de questions dans nos pratiques. Et on trouve beaucoup de réponses dans le GPM via ces pratiques. Mais surtout, la première richesse, c'est pas c'est l'instant freiné et ses écrits. La première richesse, c'est de se voir ensemble et de bosser ensemble. La richesse, et j'ai envie de dire le secret de la pédagogie freinée, il n'est pas dans les manuels de freinée. Il est là. Il est dans les... Il est là, d'ailleurs, dans... Je veux dire, c'est là, la pédagogie freinée. Hein. C'est là qu'elle prend sa force. C'est dans les échanges et le fait que vous veniez ce matin. Et c'est ça. D'accord ? C'est quelque chose de très actuel. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de poussiéreux. Certes, il a apporté beaucoup de choses. Il a théorisé et amené beaucoup de choses. Mais la pédagogie freinée aujourd'hui, ce n'est pas Céleste en freinée. C'est ce qu'on est en train de faire ce matin. Et ce qu'on peut faire après, bien sûr, dans les classes, de façon très vivante. Donc le premier point sur lequel on voulait travailler avec vous, c'est favoriser l'implication et l'autonomie. Ensuite, on vous proposera un petit atelier pratique pour vous faire bouger un petit peu, du moins des petites créations, des choses comme ça. Le troisième point, ça sera la coopération, comment la développer et l'utiliser en classe. Et le quatrième point, avec des exemples toujours, et le quatrième point, comment favoriser et encourager l'expression libre. Donc le concept, les moments de parole. Donc comme je le disais dans le petit courrier que je vous envoyais, à chaque fois à travers un petit peu de théorie, des petites choses importantes, et puis les collègues ont amené des outils, des choses concrètes à vous montrer, on a des petites vidéos, voilà. Donc c'est très ambitieux sur la matinée. Voilà. En toute petite introduction, trois petites choses à savoir avant de commencer, et qui sont valables, quel que soit, dès lors qu'on veut mettre un peu en place de la pédagogie coopérative. Souvent, les gens de l'extérieur, la façon dont ils voient la pédagogie coopérative, ou la façon dont on va le décrire un peu rapidement, c'est que c'est une pédagogie très permissive, où les enfants font ce qu'ils veulent. Un peu, moi, l'image, en tout cas, que j'avais au début. Et finalement, quand on rentre dedans, quand on lit les écrits, et quand on voit ce que font les collègues, ben, on se rend compte que c'est carrément, voire aux antipodes. Et tout ça pour dire qu'il y a énormément de cadres, et je vais vous en citer trois qui sont importants. Des cadres dans l'espace, dans le premier, dans le temps. Ce sont généralement des classes avec non pas un emploi du temps saucissonné par matière, là il y a maths, après il y a histoire, après il y a géographie, etc. Certes il y a ça, mais il y a aussi du temps pour chaque chose. Il y a du temps pour que les enfants puissent dire des choses librement. Il y a du temps pour préparer la journée, dire ce qu'on a envie de faire. Il y a du temps pour chercher en petit groupe. Il y a du temps pour un moment que le professeur donne des informations à tout le monde. Vous voyez ? Donc en parallèle aux matières, ce sont souvent des classes où on trouve de façon bien claire et bien précise pour les enfants des cadres dans le temps. C'est-à-dire que les enfants savent, je prends un exemple en maternelle, je suis en train de lire un album aux enfants, et puis à un moment, il me dit, et ça, ceux qui ont des maternelles le savent tous, « Ah, moi, j'ai la même chose à la maison, maman, elle m'a acheté ça, elle m'a acheté une robe de princesse. » Et puis, dès qu'il y en a un qui le dit, « Boum, moi aussi, à Noël, j'ai eu ça. » Vous, dès que vous avez ça et que vous avez votre histoire, tous ceux qui ont fait de la maternelle savent que ça y est, votre histoire, elle est foutue. Sauf si, en fin de matinée, vous avez un temps qui s'appelle le Quad Neuf, la tribune, et que vous dites aux enfants, moi, mes petites sections, je leur dis « Regarde, tout à l'heure, il y a la tribune. Tu pourras raconter ce que tu es en train de dire à la tribune. Pour l'instant, là, on en est à la lecture d'album. Regarde sur l'emploi du temps. » Et là, bouche cousue, il met dans une petite boîte, pas une boîte, le maître s'en fiche. Une petite boîte, le maître a bien entendu ce que j'ai dit. Donc une petite boîte en or. Et une petite boîte où dessus, il y a une pendule qui dit quand est-ce que ça pourra être dit. Et ça rassure l'enfant et il écoute mon histoire. Voilà. Donc c'est... Et ça, cet exemple pour la maternelle, on peut retrouver la même chose pour l'élémentaire. Des enfants à qui vous allez faire à un moment une leçon, un soutien, s'ils savent qu'après ou juste avant, ils ont eu aussi un petit moment où ils peuvent chercher par eux-mêmes. Enfin, les enfants, ils sont comme nous, hein, l'axiome numéro un. Vous, ça m'étonnerait que si on faisait un stage pendant une semaine, vous supportiez cette façon de fonctionner pendant une semaine. Là, pendant une matinée, c'est un petit peu obligé parce qu'on a dit qu'on donne ce matin pas mal d'informations. Donc on a choisi la modalité la plus efficace pour le faire. Mais si on avait ce fonctionnement-là pendant une semaine, je doute que tout cela, vous auriez supporté ça pendant une semaine. Déjà, pendant une matinée, on va même couper, etc. Ça va être difficilement supportable. Les enfants, c'est pareil. Peut-être que le fait de savoir tout à l'heure qu'il y aura une petite pause, un moment actif, déjà, ça soulage aussi certains. Donc vous voyez, et pour les enfants, c'est pareil. Si à un moment donné, il y a une leçon, moi je le vois souvent avec mes élèves. Quand je vous disais tout à l'heure, avant, ça ne marchait pas. Quand je prenais des groupes en soutien, mais ça les saoulait, ils ne voulaient pas venir, ils travaillaient à reculons, et des fois, il me fallait une demi-heure, trois quarts d'heure pour lancer quelque chose. Maintenant, ils savent qu'ils ont un moment de libre avant, ou un temps d'exposé, ou un temps pour parler, etc. Ou ils ont bien dans le temps, et ils savent qu'ils peuvent souffler, etc. Et bien, lorsqu'ils viennent avec moi en soutien, ce que je faisais avant en trois quarts d'heure, vu que maintenant, ils viennent plus du tout à reculons, parce qu'ils savent... en termes de besoins, qu'il y aura un peu de temps libre, moi je pense au maternel, c'est nécessaire, mais même pour les élémentaires, le fait d'avoir un peu de temps libre après ou avant, eh bien ils viennent plus à reculons. Et au lieu d'avoir les 45 minutes où je me suis battu comme un acharné, eh bien pour faire du graphisme par exemple, des choses comme ça ou de l'écrit, il me faut plus qu'un quart d'heure en temps pour obtenir ce que j'obtenais en 45 minutes avant. Vous voyez ? Donc, si vous faites le compte, 45 minutes, j'obtenais ça. Maintenant, il m'en faut 15. Donc, ça me laisse une demi-heure de libre. Donc, ça sert de demi-heure, je leur laisse 15 minutes de temps libre, par exemple, où ils peuvent souffler, et je peux faire encore 15 minutes. Vous voyez, en termes de gain d'activité, de temps, finalement, je gagne. Des fois, accepter en perdre un peu, soi-disant, c'est-à-dire de laisser souffler un peu les enfants, laisser un petit peu de marge, et on verra tout à l'heure tout ce qu'on peut laisser comme marge de souplesse. Ben, vous verrez, vous allez dire, mais je peux pas, mon emploi du temps, il est déjà surbooké. Comment vous voulez que je rajoute un temps d'exposé, un temps de recherche, un temps de machin? J'ai pas le temps de tout faire. Je viens de vous faire la petite démonstration avec l'histoire des 45 minutes, que en changeant un peu le cadre, en mettant un peu de souplesse, vous gagnerez en... Allez, on va lancer le terme de productivité. Non, je rigole, c'est pas le bon. Vous gagnerez, c'est pas de la productivité, justement, c'est bien tout le contraire. C'est que les enfants, ils viennent avec plaisir, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, et ils apprennent bien mieux. Et du coup, ben, la place, vous en gagnez. Mais à un moment, il faut commencer, justement, pour créer de la souplesse, pour créer, justement... C'est-à-dire, en gros, et ce qu'on va essayer de vous montrer ce matin, c'est qu'il ne faut pas changer ses pratiques. Il faut changer quoi, à votre avis?
Première question.
Ah, ça fout les boules, ça, tout d'un coup. Je pouvais dormir, et puis là, maintenant, il va m'embêter avec des questions. Parce que changer ses pratiques, ça veut dire j'en fais plus ou je... C'est pas possible, moi. Si vous voulez rajouter du TI à ce que vous faites, vous allez en faire 10 fois plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer s'il ne faut pas changer ses pratiques? Qu'est-ce qu'il faut changer, même en premier? Il y a un truc que j'ai horreur, moi, c'est ces questions-là, où la personne en face, elle attend une réponse. Alors, moi, ça me bloque quand on me dit ça, du coup, je trouve jamais... Non, c'est tout simplement changer son regard. Et voir un petit peu, et c'est ce qu'on va essayer justement sur les 3 exemples qu'on va vous montrer, se poser les bonnes questions et changer avant tout son regard sur les choses. Si vous changez votre regard sur la classe, ne serait-ce par rapport au temps, et que vous arrêtez de croire qu'il faut absolument 45 minutes pour tout, mais que parfois, au lieu de faire 45 minutes, d'en faire 20 qui se passent dans de meilleures conditions, et ben les choses elles se font autrement. Et je sais pas moi, vous avez 1 heure d'histoire, vous faites 1 demi-heure de leçon. Et puis la demi-heure, on peut avoir un petit peu de temps libre, mais ça peut être aussi un exposé où les enfants vont... un petit exemple concret que je vous ai promis. Pour des cycles 3, bon, ils avaient dans la classe plein de petits fichiers comme ça. Là, c'était sur les explorateurs, il y en avait sur les pays, etc. Donc il y avait tous les explorateurs, ce qu'ils avaient fait. Et je leur avais préparé des petites fiches comme ça. Là, c'était justement celle pour les... Non, c'est pour les monuments, parce que je vais avoir les explorateurs. Ouais, les explorateurs, elle est là. Donc, ils avaient une carte, il y avait des questions, quel est son pays d'origine, à quel endroit, à quel moment, à quel endroit, à quelle période historique il a fait ses explorations, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, donc, et puis, bah, donc ça permettait de travailler la géographie, les périodes d'histoire, en quoi il était contemporain avec d'autres personnages, etc. Donc, voilà, donc plutôt que faire mon heure d'histoire complète, et ben, je mettais déjà ma classe en plus petit groupe, donc je continuais à faire ma leçon d'une demi-heure, et c'est important que des fois on amène à nouveau, c'est pas une rupture avec l'idée que le maître n'intervient plus, mais il intervient autrement et de façon plus ciblée. Je peux vous assurer, quand vous faites une demi-heure avec un petit groupe, avec des enfants motivés, parce qu'après ils savent qu'ils vont faire un exposé ou autre chose, ils sont 10 fois plus motivés que quand vous faites votre leçon à 25. Voilà. Donc c'est pas que vous êtes un mauvais enseignant, d'ailleurs, souvent. C'est souvent qu'on se met trop de contraintes. Et là, on fait une paire de coups. Un, vous faites en gros votre leçon d'histoire ou de géographie pendant une demi-heure et ça passe bien mieux. Et deux, en plus, les enfants acquièrent des méthodologies sur l'exposé, etc. Et ça, on en reparlera tout à l'heure comment le faire. Et puis, travaillent en même temps sur du contenu et des choses qui les intéressent, parce qu'ils vont prendre l'explorateur. Là, moi, j'ai fait la même chose sur les animaux, sur les pays, sur un certain nombre de petites choses par rapport aux fichiers que j'avais dans l'école ou que je m'étais acheté, qui ne coûtent pas très cher, etc. Voilà. Est-ce que par rapport déjà à cette petite introduction, il y a des choses qui vous font réagir vivement? Certains souhaiteraient peut-être prendre la parole. Gardez pas pour vous, hein, s'il y a des choses qui choquent, qui étonnent, qui... Ça vous paraît... Vous avez l'impression que j'ai les pieds sur terre, ou vous dites ça y est, il est parti sur sa planète, ou les liens se font ou pas du tout?
Alors, par rapport aux exposés, il y a des enfants qui n'aiment pas ça. Donc,
Alors, si tu peux te lever et parler très fort, comme ça, tout le monde entendra.
Gilles, c'était juste pour savoir, ça parle tout le monde, pour les exposer. Je pense qu'il y a des enfants qui n'aiment pas ça. Donc, est-ce qu'on les contraint en faire ou, comment ça se passe, quoi?
Alors, si tu veux bien venir là, 30 secondes.
Tu m'avais pas dit ça, Jean-Claude. Je change, là.
Tu décides lundi en stage filé de plus faire une heure, de faire une demi-heure. Tu as ton précepte qui est très intéressant, tout le monde n'aime pas. Je suis sûr qu'il a la réponse et il va vous la donner. Donc comment tu ferais, toi? Comment tu ferais? Parce que je suis sûr qu'il a la réponse et que tu as de bonnes réponses et que je te laisse répondre, tout simplement.
Par rapport aux exposés?
Par rapport à ta question, si tu veux bien répondre à tout le monde. Parce que souvent, et on a beaucoup travaillé sur la communication, les échanges, etc. Derrière des questions, 99% du temps, vous avez... Les gens, ils ont une idée. Alors autant donner l'idée plutôt que poser la question. Mais ce n'est pas un piège, hein, que je le fais. Hein, vraiment pas. Hein, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. À nouveau, je le connais par Jean-Claude Interposé, donc je me permets de le faire pour lui. Mais ce n'est vraiment pas... Je veux dire, on est là à nouveau, et c'est ça aussi. Et c'est bien, toi, merci pour toi. Dans les... Oui. Par rapport aux réunions qu'on a et le plaisir qu'on a dans nos réunions, c'est que lorsqu'on se met dans ce genre de situation, on n'est jamais mal à l'aise, parce qu'on sait qu'en face, c'est que des gens qui sont bienveillants, et on est là pour... dire très souvent, on se met en position comme ça, alors ça paraît abrupt parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Nous, c'est complètement habituel, parce que c'est comme ça qu'on avance, et puis on cherche ensemble. Et moi, c'est pas pour le ridiculiser ou quoi que ce soit, c'est pour avancer. Dans ma classe, quand il y a un gamin qui fait ça, il va au tableau, et puis voilà, et puis on discute, et ça, je veux dire, ça met mal à l'aise. Que les adultes, parce qu'on a notre... Et je veux dire, dès que vous cassez un petit peu ce truc-là, il n'y a rien de malheureux. Ma question, elle est, que je te repose en gros ta question, c'est, vous voulez plus faire une heure d'histoire, vous dites finalement, tiens, je vais essayer une demi-heure, comme ça, une demi-heure, et puis après, je fais encore une demi-heure avec un autre groupe, et j'ai des petits groupes à gérer, ça m'est plus facile à gérer. Tiens, l'idée des exposés, ça me plaît bien, en plus j'en ai, mais j'ai peur que dans ma classe, il y ait des enfants qui n'aiment pas les exposés. En gros, qu'est-ce que tu ferais pour pallier à ça?
Je ne sais pas. Moi, je pense que pour prendre la parole en public, il faut avoir un certain courage. Et je pense aussi que ça vient aussi du fait que certains sont extravertis. Enfin, moi, je suis assez extraverti, donc j'ai plus de courage. Il y a 50 personnes. Ouais.
Donc, 70. Mais, oui, 100.
Il y en a qui sont... Ils se avertis, donc on va avoir du mal à le faire. J'ai pas vraiment de réponse. C'est donner confiance à l'enfant, mais après,
et si un
je pense
enfant...
que ça vient avec le temps, et je pense que ça va venir au fil de l'année. C'est-à-dire, en gros, je pense que tu proposes au début de l'année de pouvoir faire des exposés. L'enfant, il est prêt, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, c'est pas grave.
Et, puis, et qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ne sont pas prêts? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ne sont pas prêts?
Il n'y a pas de piège, vraiment pas, ouais. C'est ouvert.
La préparation, on pourrait prendre partie active au travail de recherche, à la vie du groupe. Mm-hmm. Aussi, il y a sa pierre à l'édifice à apporter, même s'il ne se peut pas prendre la parole de tout le monde.
Mm-hmm. Ah oui, ce que tu disais, c'est... Ils n'aiment pas les exposer parce qu'ils n'aiment pas se présenter.
Oui,
c'est pas le fait de faire. Moi, j'avais compris, ils n'aiment pas faire des exposés, faire des recherches. Ah, c'est l'aspect, ils n'osent pas se mettre. On n'était pas sur la même question. D'accord. Ah, mais c'est complètement différent comme question du coup. Et puis vous avez bien compris, il n'y a que moi qui étais à côté de la plaque. D'accord.
C'était ça, prendre la parole devant tout le monde. Pour moi, c'est ça l'exposé, mais.
Il y en a qui veulent des préparations.
Ah ouais. Oui, il y en a qui ont du mal à
rédiger,
chercher.
Ils ne savent pas chercher.
Alors, tu peux le redire à tout le monde, te lever, puis le dire à tout le monde. Vous n'allez plus parler. En fait, quand on a 3 heures pour être tranquille, on donne la parole au début, puis après les autres, ils n'osent plus parler. Ce que ça veut dire, il faut se lever.
Donc, pour avoir fait tester les exposés il y a peu de temps, c'est comme ça que ça se passe naturellement. Souvent, les petits parleurs se mettent avec des extravertis, ils participent tous, ils font le travail de recherche et après ils sont tout discrets pendant la phase orale et puis ils prennent confiance au fur et à mesure et dès que par contre il y a des questions et il y a interaction avec les gens de la classe, là ils décident de parler parce qu'ils ont participé, ils savent exactement comment répondre et ils y vont à fond et ça se passe très très bien. C'est comme ça que moi ça démarche.
Parce qu'en maternelle, c'est toutes les recherches d'Agnès Florin, ceux qui connaissent, qui a travaillé sur les petits parleurs, grands parleurs. Ce qu'elle appelle les petits parleurs, c'est vraiment les enfants introvertis, les enfants qui parlent très peu, pas ceux qui parlent mal. Dans les petits parleurs, on peut avoir des enfants qui ont un très bon lexique et qui font de très bonnes phrases, comme vous pouvez avoir des enfants qui ne parlent pas du tout. En petite section, celui qui ne parle pas, il est aussi petit parleur. Moi, j'ai un enfant qui parle très mal, qui doit avoir de l'orthophonie, mais qui, dans ma classe, est dans les grands parleurs. On ne comprend rien à ce qu'il dit, mais il parle sans arrêt. Il participe parce qu'il a une grande aisance. Et ce qu'elle dit, elle, c'est que quand on travaille sur un débat, un échange, à certains moments, de plutôt mettre les petits parleurs ensemble, les grands parleurs ensemble, les petits parleurs, là, vous ne mettez pas de règles, au contraire, il faut valoriser la parole, etc. Les grands parleurs, c'est plutôt l'inverse. Eux, il faut vraiment vous mettez un bâton de parole, on parle chacun son tour, on apprend vraiment à faire attention aux autres, et voir, vous les faites même travailler sur l'écoute. Il y a un enfant qui a pris la parole, vous demandez à tous les autres de faire une synthèse de ce qu'il a dit. Ce n'est pas du tout le même travail qu'avec les petits parleurs. Et chose qui est très intéressante, ce qui rejoint ce que tu disais, comme quoi tu vois, tu n'as plus besoin de dire Agnès Florin, quand on les remet ensemble, quand moi je fais ma synthèse après, eh bien les petits parleurs, ça arrive les trois quarts du temps, que ce sont eux qui deviennent pas bruyant, mais en tout cas qui vont donner les réponses avant même les grands parleurs. Et comme quoi on est vraiment sur une histoire de confiance en soi et qui n'est pas arrêté, c'est pas parce qu'il n'a pas confiance en lui qu'il le sera toujours. À un moment donné, quand il a pris confiance dans l'idée, c'est-à-dire dans le petit groupe en petit parlant, entre eux, il a pris confiance dans son idée, il a vu que son idée était intéressante, il l'a développée, il est tout à fait capable, après, de la tenir devant un grand parleur. Qui souvent, le grand parleur, grande gueule, mais au niveau des idées, ça tient bien moins la route parce qu'ils n'écoutent pas les autres. Alors que les petits parleurs sont 10 fois plus à l'écoute et sont capables de prendre les idées des uns et des autres. Je caricature, mais on n'est pas loin de ça. Voilà. Et là, on tombe sur ce que disaient les collègues, et la question est passionnante, sur la place de chacun. Et est-ce que l'exposé, c'est, j'ai envie de dire là ce que tu nous dis, finalement, est-ce que l'exposé, c'est intéressant un par un? Ou est-ce que par équipe, ça ne devient pas passionnant, justement? Parce qu'on va... justement, échanger en le faisant, certains peut-être le présenteront, et puis vous serez étonné sur qui va le présenter. Hein. Moi, je vous donne un exemple qui n'a presque rien à voir, mais qui est quand même lié. Dans ma classe, il y a la tribune, c'est un temps où les enfants peuvent parler. Donc, il y a un président, donc il doit venir au tableau et qui va donner la parole. Il se met devant tout le monde et doit prendre la parole pour rappeler les enfants à la règle. Tais-toi, tu fais trop de bruit, etc. Ben, celle qui, dans ma classe, le fait, c'est une gamine qui voit la maîtresse Uraz pour des raisons d'introversion énormes. C'est-à-dire qu'elle ne veut jamais parler. Et quel poste elle a choisi? Présidente de la tribune, le truc où elle est au cœur de tous les regards de toute la classe, où elle doit donner. Et elle le fait à merveille. Donc vous voyez, des fois, quand il y a quelque chose qui passionne, qui motive, ben les enfants, ça peut être justement la petite... porte de secours, une des portes de secours, c'est pas, je dis pas que ça va la soigner, et puis bon, il y a la maîtresse Uraz aide, et puis il y a d'autres soucis, d'autres problématiques, et ça n'empêche pour cette gamine, c'est une des petites bouées de secours qui est très importante. Vous voyez? Et pour les exposer, tu dis, bah, il y a peut-être celui qui est timide qui va pas oser, bah, je peux vous assurer, dès lors, vous allez leur faire confiance. Et à nouveau, ce que je disais tout à l'heure, changez votre regard, et notamment changez votre regard à plusieurs. Moi, souvent, le mercredi, quand on a les réunions, et je reviens le jeudi, il se passe plein de choses magiques dans la classe. Les gamins, ils changent. Et pourtant, c'est que dans ma tête, hein, j'ai rien changé, mais peut-être que mon regard, ma façon de voir, et eux, ils le sentent, et puis il se passe plein de choses. Il y a des choses qui se développent, notamment chez les enfants en difficulté. Et donc, l'importance à nouveau de parler, d'échanger, et d'être avec les autres. Voilà. Oui.
Moi, je leur ai fait aussi comprendre que le savoir, c'est eux qui l'apportaient, en fait. Donc, on a fait des préalables sur des travaux de groupe, et de ce fait-là, l'exposé arrive petit à petit, en fait, dans une mise en confiance progressive, où le petit parleur va comprendre que c'est lui qui peut, comme tu disais, synthétiser les informations de chacun, arriver à trouver sa place et à se positionner au sein du groupe pour aller donner la parole après devant le grand groupe et tout simplement prendre du plaisir à communiquer toutes les capacités et les compétences qu'il n'arrivait pas à sortir avec la parole. Et ça, si on le met en confiance en lui disant simplement que c'est avec des travaux préalables du groupe ou c'est sur l'exercice de tu veux apporter de la connaissance du groupe, tu peux apporter un savoir et que tu aies confiance en toi. Et au fur et à mesure, quand tu auras le temps, quand tu prendras le temps, au moment où tu l'auras choisi, tu t'inscriras. Je pense que c'est beaucoup dans une pratique de classe, que souvent les supérieurs, s'ils ne sont pas confortés à un moment où ils ont besoin, ils ne s'en sont jamais en fait. Et c'est ce changement de point de vue qui fait que des fois, quand on est dans notre rapidité, dans notre planning, on n'a pas le temps, il faut qu'on avance, qu'on ne prend plus parfois, et que grâce aux réunions qu'on a, on se pose, et on vient aux autres classes en disant tiens, ce jour-là, aujourd'hui, je vais prendre le temps, et des fois, on se développe aussi. Donc voilà, nous développons dans 2 jours plus tard.
Et si ça se débloque là au moment de l'exposé, il y a de fortes chances que par effet de boule de neige, ça se redébloque ailleurs.
Tout à fait.
Ouais. Et peut-être que les soucis en mathématiques, en machin, ça va se débloquer aussi. Et là, ce que je voulais aussi vous faire sentir dans la matinée, et qui va peut-être vous mettre mal à l'aise, c'est toute la complexité d'une classe. C'est qu'on est nous toujours dans, on a notre notion en mathématiques, je fais une progression et je m'intéresse aux mathématiques. Je mets un mur. En géographie, encore géographie, mathématiques, des fois il y a des petits liens, mais encore c'est des passerelles de l'ordre de la petite paille, et non du tuyau, du vrai. Et puis après je remets un mur pour les arts plastiques, etc. Et je vois pas, et j'ai beaucoup de mal à voir que finalement ce qui peut à un moment se débloquer en arts plastiques, qui va peut-être à un moment extrêmement valoriser un enfant par rapport à ce qu'il a fait dans le cadre d'une exposition, ça peut avoir un effet énorme sur l'exposé, lui faire le faire parler, le fait de l'avoir fait parler, hop, le faire autre chose. Et puis peut-être atténuer un moment et que ça revienne. Donc une classe, c'est vraiment des choses très complexes. Alors on a des membres du RASA dans la classe, dans la salle, qui je pense ne diront pas le contraire de ce que je dis. Mais une classe, c'est véritablement quelque chose de très complexe et que nous, justement, à plusieurs, dans nos réunions, on essaye d'appréhender, de sentir, de toucher du doigt. Et de ne surtout pas voir la classe comme à nouveau une série de pratiques, il faut que je mette en place, allez, je vais faire la pédagogie collaborative, je vais mettre un conseil et puis des exposés. Alors pourquoi pas, pour commencer, c'est bien de s'y roder, mais à nouveau, ce qui est intéressant, c'est de voir, j'ai envie de dire, je veux pas vous leurrer absolument, pour faire vraiment de la pédagogie coopérative et aller au bout de ce genre de pratiques, il est indispensable de travailler avec d'autres collègues. On ne peut pas demander aux enfants de le faire. Et vous, d'en faire l'économie. À mon avis, c'est exactement pour la lecture. On vous l'a tous bâché et rabâché. Des gamins qui ne voient jamais d'adultes lire, qu'est-ce que vous voulez leur apprendre à lire? Des adultes qui n'ont jamais fait de danse de leur vie, qui demandent à des enfants de faire de la danse et de se bouger avec leur corps, ça marchera beaucoup moins bien que quelqu'un qui en a fait déjà par lui-même. Pas forcément qui a atteint une grande technique, mais en tout cas qui s'y est confronté. On y voit les limites, etc. Par rapport à ce que tu disais, et c'est bien parce que là on est en train de faire de façon transversale, mes collègues ils sont en train de transpirer parce qu'ils voient qu'on en est toujours à la première partie, qu'on n'a pas avancé. Moi ça ne me gêne pas parce qu'on est en train de parler de plein de petites choses qu'on va recadrer après. Moi on est en train de rebalayer des choses qu'on va. Là on a parlé d'exposé, on a parlé de l'estime, du moins de la confiance en soi, et l'estime de soi, on en reparlera justement par rapport au conseil. Ça c'est un document de l'OCCE. Du 93, qu'on trouve dans leur partie d'objets, de documents à télécharger. Aveyron. Ça s'appelle.
L'OCCE
Aveyron. C'est 93, parce que. Oui, bon, en tout cas, c'est l'Aveyron. Mais... Bon, moi, je l'ai trouvé sur l'OCCE 93, du moins le site de l'OCCE 93. C'est un document. Au-delà du document, c'était pour aller plus loin que la confiance. Ce qui est intéressant, c'est penser à ça. Estime de soi. Et pour moi, la confiance, c'est une des sous-parties de l'estime de soi. Et j'ai envie de dire, le fondement de tout ce type de pratique, c'est de faire en sorte et de développer, d'aider les enfants à avoir une bonne estime d'eux-mêmes. Et c'est ça qui va faire, j'ai envie de dire, qui est le fondement commun pédagogie coopérative, pédagogie freinée, pédagogie institutionnelle, pédagogie humaniste, tous ceux qui veulent, parce qu'après, on n'a pas le monopole de ce genre d'idées. Voilà. tout à l'heure, dans les petits groupes, justement, on proposera à un groupe de faire un exposé sur ça aux autres. Donc on fera des petits ateliers tout à l'heure. S'il y en a qui veulent un petit peu regarder ces documents pour ensuite les présenter, voir ce qui est intéressant, on demandera à un groupe justement de travailler là-dessus, un petit groupe qui voudra travailler pour présenter ces documents, faire une petite synthèse de ce qui est important. Qu'est-ce qu'il y a ?
Un petit groupe de parleurs.
Voilà. Donc l'estime de soi, vraiment, avec ce que disait Lison, alors elle exagère, parce que Lison, elle s'est mise là-bas, mais elle vient à nos réunions depuis déjà un certain temps, donc elle fait aussi partie du groupe. Il y a plusieurs personnes hein, qui sont... Lison, tu étais PE2 il n'y a pas longtemps. Bon, voilà, donc l'année dernière, elle était venue déjà en tant que PE2, donc vous voyez, il y en a qui persistent et puis qui reviennent. voilà. Donc au niveau des cadres, je vous en ai promis trois. Donc le premier, c'était le temps. Le deuxième, ah, je ne lâcherai pas le morceau, hein, moi, de partir, de faire beaucoup de digressions. Mais à nouveau, et petite digression, ça montre toute la complexité de la chose. Que justement, ce type de fonctionnement, ce n'est pas du tout un fonctionnement qui est linéaire. Qui est on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est énormément de choses qui sont en interaction les unes avec les autres, qui se relient et qui jouent ensemble. Et c'est ce qui est intéressant dans notre pédagogie, dans notre façon de faire, dans ce qu'on cherche à faire, c'est justement de mettre en relation toutes ces choses-là. De les mettre en conjugaison les unes avec les autres. D'accord ? On peut avoir des fois avoir un projet journal, un projet machin, mais quand tout ça c'est complètement cloisonné, ça n'a pas le même effet que quand les choses sont en interaction et dont l'effet peut se conjuguer. Voilà. Je suis assez peut-être abstrait, mais à la fois concret. Et ça à nouveau... Cette conjugaison, on l'a par la recherche, par le travail avec d'autres collègues, par la recherche avec les enfants aussi, parce qu'ils sont partie prenante aussi de tout ce travail avec nous. Donc le deuxième cadre qui paraît très important aussi, c'est dans l'espace. Donc dans les classes, donc on a, comme toutes les classes souvent, et encore pas forcément toutes, des espaces bien délimités. Un espace de recharge, un espace de documentation, un espace de ceci et cela... Et la petite chose souvent qui manque, que ce soit d'ailleurs quel que soit le cycle, un espace avec un lieu où les choses peuvent rester en état. Moi, je pense à un collègue qui avait des CP, Stéphane Daubilly, qui avait installé et il avait un coin avec des capes là, des petits personnages, etc. Il avait créé tout un monde, enfin, les enfants avaient créé tout un monde imaginaire avec ça. Mais ça restait d'un jour à l'autre. Parce que souvent, quand vous l'avez dans vos classes, ces choses-là, c'est l'heure, et brrr, on range tout. Donc on avance, brrr, et puis bah, du coup, il ne faut qu'avancer que comme ça. Alors que dès lors qu'on a des espaces, soit de là j'ai pris création parce que l'image est intéressante, ça montre bien que si vous faites ça, le lendemain on pourra avoir ça, puis ça, puis ça. Puis éventuellement, on redescend ça pour refaire ça, améliorer. On va avoir véritable une évolution. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est la construction des savoirs qui se passe comme ça. Et nos classes, elles sont sans arrêt dans la première image que je vous ai donnée. Essayez de voir ce que vous faites. Sans arrêt, tous les jours, on fait ça. On reprend le lendemain. Au lieu d'essayer de trouver des outils, des choses, pour laisser en place les choses.
Voilà.
J'avais été étonnée par sa classe que j'avais visitée à Bobigny. Il avait des CE2, je crois, à l'époque. C'était une classe qui ressemblait plus à une classe de maternelle, en fait. Parce qu'il y avait les coins marionnettes, il y avait un coin de cuisine où il avait vraiment les plaques électriques. On était allé un samedi matin, ça sentait les crêpes, ils en avaient fait la veille. Hein. Il y avait un coin art visuel qui était gigantesque, ça suspendait au plafond. Enfin bon, il y a un truc pas possible. Un coin bricolage avec la scie, le marteau. La râpe, ouais. Les bouts de bois, les stocks de matériel qui pouvaient peut-être servir plus tard. Et ça ressemblait vraiment à une classe de maternelle. Il y avait quelques tables au milieu pour du travail sur table. Il n'y avait pas autant de tables que d'enfants. Il y avait une étagère avec les classeurs, les fichiers de pédagogie freinée ou autres, les documentaires. Et puis voilà. Mais c'était une classe d'élémentaire qui ne ressemblait en rien à ça, qui permettait justement, comme disait Mehdi, de laisser, de reprendre, de continuer, de finir, de montrer, etc. Et j'avais été assez surprise par sa classe. Je n'avais pas vu fonctionner avec des élèves. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on il n'est pas obligé d'être dans cet extrême-là, peut-être, parce qu'il a beaucoup d'années d'expérience. Mais pour avoir travaillé en élémentaire et n'avoir jamais osé faire de la pédagogie freinée en élémentaire tout en nous disant ouais, ça serait peut-être bien, parce que moi j'étais dans l'image de ce que disait Midi, de oh là là, c'est des enfants, ils rentrent dans la classe le matin, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Voilà, ça m'effrayait. Mais pour être passée maintenant en maternelle, je pense que si je revenais en élémentaire, effectivement, ça changerait sans doute des choses, sans forcément être en pédagogie freinée, mais je pense que ça me permet de voir les choses différemment et de s'organiser différemment. Moi, l'art visuel à 28 en élémentaire, pour moi, c'était impensable. Je pense que maintenant, je verrais autrement, par petits groupes, tout simplement, quoi, ce qui permet de faire. Voilà.
Par rapport au...
Il faut porter un autre regard sur les choses, effectivement, et sur ne pas vouloir qu'ils fassent tous la même chose au même moment. Je demande à lâcher prise, mais je n'ai pas forcément encore. Mais voilà, ne pas vouloir tout contrôler.
Alors, ne pas contrôler, les exposer, on pourrait faire le petit lien, se dire, mais les exposer, pourquoi il faut absolument les finir? On peut présenter à un moment donné un exposé dans l'état de, en début d'année. Et dès lors qu'on a travaillé l'ensemble des périodes historiques, de revenir et de réenrichir les exposés avec de nouveaux apports qu'on aurait vus, etc. Ça pourrait être très bien, vous voyez, de dire l'exposé ne s'arrête pas. Que le classeur avec les exposés, eh ben, il peut continuer à être enrichi par d'autres. Et là, on tombe encore sur une autre. Est-ce qu'un exposé fait par un enfant, je peux m'autoriser à ce qu'il soit repris par d'autres enfants? Déjà, je pense que ça va déranger certains, etc. Nous, à nouveau aussi, bien sûr que ça nous dérange, mais on a toujours ces espaces-là où on va en discuter ensemble. Et puis finalement, en fait, on est en train de réinventer quelque chose qu'on vit tous les jours avec Wikipédia. Je ne sais pas si vous connaissez les encyclopédies interactives, où c'est complètement ce principe-là qui est mis en place. C'est qu'il y a quelqu'un qui va présenter une définition ou faire une présentation qui va être améliorée par un autre. Et l'étape supplémentaire pour aller plus loin, qui va encore vous effrayer, c'est que, est-ce que ces exposés, en plus, ils ne peuvent pas être enrichis d'une année à l'autre? Est-ce que ces outils, parce que là, on est en train de voir, tac, 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 de le construire, faire des passerelles sur une année, mais je vous raconte, moi, cette logique-là, on peut l'avoir exactement pour une classe à l'autre, où on construit ça une année, qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'année? Et puis on recommence tout à côté. Quels sont les liens, les passerelles qu'il y a, les choses qu'on est en train de créer en commun, les outils qu'on se transmet, on est dans cette logique-là, hein. Et dans, d'ailleurs, on est complètement dans la logique de cycle, dont je suis très inquiet, qui risque de disparaître. Hein. Et d'ailleurs, le premier ennemi des cycles, c'est les instituts. Hein. Je veux dire, ça, c'est 89, les cycles. Hein. C'est toujours pas mis en place. Je veux dire, c'est une innovation quand on parle de cycle. C'est quand même incroyable. On est en 2010, ça fait 20 ans que c'était mis en place. Quand on parle un peu de cycle et de mettre en place les cycles un peu jusqu'au bout dans leur logique, ça paraît super innovateur et les gens, ils sont « Oh là là, mais c'est trop de nous demander !» Alors que ça fait 20 ans que ça a été mis en place et qu'on est encore, en termes de fonctionnement de classe, il y a 20 ans. Donc vous voyez, nous, ce qu'on propose, c'est... les cycles, ça correspond à... Vous allez dire qu'en 89, l'éducation nationale a été noyautée par des frénétiques et, à l'époque. Bon. Et le troisième.
Je voudrais juste dire quelque chose qui m'interpelle. J'ai eu cette réflexion là que tu viens d'avoir, Mehdi, avec un collègue qui est là maintenant à la retraite, mais qui a beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé sur le regard qu'il pouvait avoir avec ses élèves. Et je lui ai dit que je m'étonnais aussi que depuis 1989, quand même, c'était vraiment dommage et qu'on en arrive là, c'était peut-être aussi un peu de notre faute. Et il m'a juste dit, les hypocrites là-dedans, ce ne sont pas, ou les malveillants, ce ne sont pas, je ne pense pas que ce soit nous, c'est plutôt l'institution qui, lorsqu'elle a institutionnalisé les cycles, puisque c'était la loi d'orientation, n'a pas supprimé les cours. Et les cours, le CE1, le CP, le CE2. Et c'est vrai, alors du coup, je me suis tue et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, peut-être bien que oui quand même. Parce que laisser les deux survivre, enfin laisser mettre en place les cycles, Et laisser les classes, enfin les CE1, CE2, CM1, CM2, c'était quand même hypocrite. Et c'est hypocrite. Et la tâche, je n'ai pas dit que notre travail devait être facile, loin de là. Mais c'était mettre je ne sais pas combien de chevaux devant nos charrues, enfin, et puis plus savoir où on en était. Parce que c'est vrai que dire, voilà, maintenant c'est les cycles, et puis il n'y a plus de classe, d'accord, voilà, vous allez vous débrouiller dans les écoles. Là, on mettait les gens vraiment au travail. C'est-à-dire qu'en pédagogie de l'institution, c'était un peu différent. Et c'est vrai que ce soit où ça en est là, c'est... Bon, ça, c'est un autre regard, très politique aussi.
Oui.
C'est vrai que maintenant, c'est bon, c'est évident que nos outils doivent se transmettre et que c'est comme ça qu'il faut travailler. Parce que travailler tout seul, et c'est ce que tu disais quand j'ai écrit. Je suis en pleine rédaction là et je pensais à ce que tu as dit, Salima, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois. C'est que nos outils, si ce qu'on fait... Si effectivement ça se fait pas avant ou après, parce que toi tu as des tout petits, vous êtes nombreux à avoir des petits, hein. Si ce que vous avez mis en place, ça se continue pas, ou si alors c'est les enfants qui sont malheureux, hein. Au-delà de ce que nous on peut ressentir, parce que bon, on est habitué, enfin c'est notre boulot quoi, mais ou si les grands, ou si en milieu de parcours, tout d'un coup, paf, on plante des graines, et puis que l'année d'après, ils sont habitués, après au collège, remarquez, hein, vu ce que... Bon. Et un peu plus tard, mais bon, on se place pas dans cette optique. Et c'est vrai que là, quel que soit l'avenir des cycles, parce que bon, malheureusement, ce qu'on voit n'est pas très prometteur, puisque vous êtes tous là, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est, je dois travailler avec les autres, quoi. C'est sûr.
Alors, le dernier point de cadrage, donc, le temps, l'espace, et à nouveau, ce qui se voit pas forcément ou auquel on fait pas forcément attention parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est les règles. Souvent, ce sont des classes où les règles sont clairement affichées et débattues avec les enfants. Et là, je mets un bémol sur le débattu avec les enfants. Pour moi, en aucun cas, on a à discuter ou à remettre en cause la loi. La loi, elle est écrite, elle est la même pour tout le monde, et on n'a pas à refaire, réinventer la loi par les enfants, du moins de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, nanana, nanana. Moi, je trouve ça un peu bizarre qu'on passe beaucoup de temps, qu'on leur fasse discuter, pour finalement leur dire, mais oui, mais de toute façon, c'est la loi, c'est comme ça, et puis à la fin, ça doit être ça. Alors, je ne vais pas vous laisser non plus dans cet état d'incertitude et vous donner ma réflexion où elle en est par rapport à ça. C'est que pour moi, on mélange deux choses. On mélange règlement et loi. La loi, elle doit être donnée. En l'adaptant, c'est sûr qu'avec des petits ou des CM2 ou des enfants de collège, on ne va pas forcément donner le code pénal ou le code civil à des enfants de petite section, et on ne va pas le donner à des CP ou à des CM2 ou à des 6e ou 4e de la même manière, on ne va pas donner la même façon. Mais ça n'empêche que donner la règle est toute simple, c'est on se doit de respecter les autres, et on a le droit d'être respecté. Donc il y a les deux choses d'ailleurs, il y a les droits et les devoirs. Ce qui est intéressant, c'est de mettre aussi aux enfants de bien montrer l'articulation des deux. De certes, tout à l'heure on parlera peut-être des droits de l'enfant, etc., vous avez des droits, mais tout droit existe parce qu'il y a en contrepartie des devoirs. Donc vous devez montrer, expliquer, mais pas débattre. Ou débattre avec des plus grands sur pourquoi pas, mais c'est pas en tout cas remettre en cause. La loi, elle est comme ça, elle doit être appliquée, ben c'est le fonctionnement d'une démocratie. Et du coup, généralement, il y a beaucoup de classes qui le font et qui passent du temps à faire écrire aux enfants, etc., alors qu'elle existe déjà. Et ben, on prend les textes et on en discute. Après, ce qui est intéressant, c'est la deuxième étape où là, il y a un espace de négociation. C'est pourquoi ces règles-là ne sont pas respectées. Pourquoi dans la cour, il y a des bagarres? Pourquoi dans la classe, ça se passe mal? Pourquoi, ou inversement, pourquoi ça fonctionne bien? Et bien, qu'est-ce qu'on va mettre en place au niveau de notre école, au niveau de notre classe? Quel règlement interne on va mettre en place? Comment on va traduire la loi pour notre établissement? On a le droit d'aller aux toilettes tout le temps, c'est un droit. Mais en même temps, je veux dire, quand il y a un temps collectif et si toi tu y vas et puis que tu déranges tout le monde, c'est pas super. Donc là, généralement, le règlement que j'ai donné un petit peu au début, c'était oui, vous pouvez y aller quand vous voulez, dès lors qu'on ne dérange pas tout le monde et qu'on ne fasse pas du bruit, etc. D'accord? Donc ce qui est négociable et ce qui devient négociable en conseil avec les enfants, c'est le règlement et de ne pas mélanger les deux. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre la loi qui est la base et qui a donné, qu'il faut informer et avoir à vous quelle forme, quel biais il faut donner. Et après, par contre, le règlement au niveau de la classe, au niveau de l'école, et voir Chantal est là, qui travaille dans l'école à côté de moi, où on avait un peu parlé de faire un règlement commun de la maternelle jusqu'à l'élémentaire. D'avoir peut-être aussi, tant qu'à faire, un règlement commun à un groupe scolaire pour qu'il y ait une continuité de la petite à la moyenne section jusqu'à la grande section, mais aussi pour que de la grande section au CP, et ça vous avez bien vu, oui bon ça fait gadget, ben non. Je peux vous assurer que pour des enfants qui ont dont le cadre n'est pas facile à voir, qui sont turbulents, etc., et bien quel temps vous gagneriez à avoir un même règlement du CP au, voyez, de la grande section au CP. Et plus vous gagnerez de temps, plus vous donnerez des cadres à ces enfants-là, plus ils rentreront facilement dans les apprentissages à côté. Vous voyez la notion de système dont je vous parlais tout à l'heure, que les choses vont les unes avec les autres. D'accord ?
D'autant que la loi à l'école, elle n'est pas si compliquée que ça, il n'y a pas 50 000 choses à dire, c'est respect et travail. Et à partir autour de ces deux axes, on peut développer 4, 5 articles différents, et c'est tout. Et plus on multiplie les références pour les enfants à respecter, moins ils ont de facilité à le faire. Plus c'est simple, plus c'est facile à respecter. Et c'est cette loi-là qui doit être affichée. Après, le règlement, il va pouvoir varier d'une classe à l'autre, il va pouvoir être tacite parfois même entre les enfants et l'enseignant. Il va pouvoir évoluer au cours de l'année en fonction des besoins et des envies des enfants. Et, alors que la loi, elle doit être très simple, affichée dans la classe et innégociable.
Et si on prend les écrits de Freinet, c'est amusant parce qu'on a le contraire de souvent dans... de façon péjorative quand on parle de Freinet, lui, je vais à nouveau caricaturer, il dit arrêtons de faire jouer les enfants et faisons-leur enfin travailler. Vous voyez ? C'est arrêtons sans arrêt de passer du temps à les faire jouer, etc. Allez, maintenant on va travailler. Parce qu'il donne le travail avec un grand T quand elle dit travail. Alors c'est pas le même travail que d'autres personnes actuellement, avec d'autres valeurs, du moins quand on parle de réseau. Le travail, on peut le joindre à d'autres, au pétinisme notamment, etc. Attention, hein, c'est pas ce travail-là, travail, patrie, c'est pas ce travail-là. Nous, on parle plutôt du travail émancipateur. D'accord ? Le travail au service du développement de la personnalité, de ce que je suis, de mon être et de la société, là. C'est ce travail-là dont on parle. Donc place au travail et non pas au jeu. Il y a pas mal de chercheurs, là j'ai lu récemment, des chercheurs qui disent, notamment en maternelle, arrêtons sans arrêt de les faire jouer, on perd un temps fou. Non pas qu'il ne faille pas faire des situations ludiques, mais les enfants n'y voient que le jeu, n'y voient même plus les apprentissages. On est maintenant on a poussé trop l'aspect un peu ludique. Alors je ne dis pas que le jeu n'est pas important, et il faut que dans la classe il y ait des espaces et des temps. Tout à l'heure je vous parlais d'espace et de temps, c'est important qu'il y en ait. Mais le mélangeons pas avec le reste non plus. D'accord ? Et le travail, je voulais rajouter un aspect, à mon avis, qui me semble plus que fondamental. Dans les règles par rapport au travail, certes, on doit travailler, on doit s'appliquer, etc. Mais avant tout, une des règles fondamentales, c'est on a le droit à l'erreur. Moi, c'est écrit en haut de mon règlement, en lettres d'or. C'est on est là pour travailler, mais on a le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer, on a le droit de tâtonner. Et tant mieux, d'ailleurs, quand il y a des erreurs... que quand tu m'as ton témoignage là, c'était pas quand je fais venir et qu'il y en a un qui se plante, je dis super, viens dire ce que tu as dit et puis on échange et puis les autres et on construit ensemble. Et c'est justement de là que naissent tous les échanges. Bon, après là on tombe sur d'autres courants, mais le droit à l'erreur par rapport à l'estime de soi dont on parlait, donc tout ça c'est à nouveau complètement lié.
C'est bien montré, ça.
Voilà pour les trois cadres. Les programmes, je pense en avoir déjà un petit peu parlé tout à l'heure, bien dire que ce type de pédagogie, de fonctionnement, ne se met pas à dos les programmes ou l'institution. Hein. À nouveau, Freinet a choisi de se mettre en école privée pour des raisons qui ne sont pas que anti-institutionnelles. Nous, on est dans des écoles publiques et on se situe dans le cadre des lois, des textes, etc. En aucun cas, on se situe contre une institution quelconque. Hein, d'accord ? Et dans ce que j'ai essayé de vous démontrer, d'un point de vue qualitatif, ce genre de pratique peut amener, au contraire, à travailler justement bien plus de façon qualitative les programmes, via non pas un rabâchage, une quantité de choses importantes, mais là où on arrive, moi je pense, à développer davantage les apprentissages et l'entrée dans les programmes, c'est justement de ne pas être comme dans la logique de maintenant où on veut revenir aux leçons, machin, au tout, au rabâchage et au marteau sur la tête des enfants, à plutôt ouvrir les enfants, les faire qu'ils soient disponibles. Réfléchissez 5 secondes, ou 10 ou 30, j'en sais rien, les problèmes des enfants que vous avez dans votre classe. C'est quoi le cœur des problèmes pour les plus importants ? C'est pas qu'ils sont bêtes, et souvent d'ailleurs, les plus en difficulté, c'est souvent, vous le savez bien, c'est presque pas les plus brillants, mais en tout cas on sent qu'il y a... Il y a du potentiel énorme. Souvent, ça, on l'entend. C'est qu'à un moment, ces enfants, ils se ferment, et plus rien ne rentre. Donc après, vous aurez beau en rentrer, ça ne marchera plus. Par contre, si vous les ouvrez, c'est là que ça fonctionnera davantage. Donc nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est ça. C'est chercher plutôt cette ouverture, ce qu'on appelle, nous, la disponibilité. Lévin, je ne sais pas si certains le connaissent, Jacques Lévin, un philosophe, décédé il n'y a pas longtemps, lui parlait de ça, il disait que peut-être au cœur des discussions qu'on devrait avoir, à répondre, parler toujours programme de machin, posons-nous un mot, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ces enfants plus disponibles ? Parce qu'on est toujours avec nos leçons, nos machins, mais en face, on a des gros yeux écarquillés qui ne nous écoutent absolument pas, des enfants qui ne sont pas du tout disponibles entre le catch, le machin, le truc, le bidule. Or, certes, il y a peut-être la société à changer, mais après, on ne peut pas non plus être idéaliste et le but, il n'est pas là. C'est concrètement comment on peut faire pour que ces enfants, ils écoutent et ils soient déjà un petit peu plus là avec nous chaque matin et chaque après-midi. Voilà. Le premier point, favoriser l'implication et l'autonomie. On va aller très vite. Pourquoi ? Parce qu'on a un document de 4 pages qu'on va vous donner, distribuer quand j'aurai fini ma petite présentation, qui a été fait à la fois en réunion de GPM et à la fois avec des PE2 l'année dernière, sur justement pourquoi mettre de l'autonomie, comment mettre en place de l'autonomie et avec quel type d'atelier. Donc il y a plusieurs petits exemples d'ateliers à l'intérieur. Et à la fin, des sites, des publications et des sites. Donc l'ICEM. Et puis donc vous avez des publications, donc, notamment l'ICEM produit régulièrement, dont la dernière c'était justement sur l'autonomie, sur le travail individualisé des enfants, produit régulièrement des publications. Alors à nouveau, j'aime pas quand je dis l'ICEM, parce que ça fait un truc magique. L'ICEM, c'est quoi ? C'est des gens comme vous, qui à un moment se mettent à plusieurs, vont filmer chez les copains, par des listes d'échanges, demandent t'as pas des trucs, t'as, peux pas me faire une synthèse. Moi j'ai participé au truc sur la maternelle, j'ai fait une petite synthèse dedans. Tel autre collègue, ben, il a fait telle partie, il y en a un qui coordonne, voilà. Quand ces publications-là dont je vous parle, c'est pas un chercheur, c'est une coordination de personnes dans notre association au niveau national. Chacun a donné un petit bout de film, un plan de travail, un document, et on retrouve dans ce genre, dans ce type de document. Par exemple, celui-là, c'est sur démarrer en pédagogie freinée. Donc là, c'est un document qui a été fait justement à destination de public un petit peu comme vous. Vous avez eu, normalement, je vous ai envoyé un extrait de ça. Alors, qui était assez dense, là c'est encore un peu plus dense, et en plus vous avez un CD-ROM. Les derniers, notamment celui sur l'autonomie, il y a un DVD dedans, DVD-ROM. Donc vous avez, je vous montrerai tout à l'heure, là j'ai les vidéos, on a quelques vidéos qui sont commentées parfois par les auteurs, dans le truc vous avez c'est relié à la théorie, etc. Voilà, donc ça ce sont des publications, alors nous on en a quelques-unes là qu'on vend, mais pas énormément. Je vous enverrai après le site à chacun. Et de toute façon, sur le document, c'est marqué où on peut se les procurer si ça vous intéresse. Voilà. En gros, je suis en train de vous dire, on va traiter d'un thème, je vous dis où est-ce qu'il faut aller chercher pour avoir les infos. Mais blague à part, c'est comme ça que beaucoup fonctionnent, nous. D'ailleurs, c'est amusant, je ne sais pas comment vous fonctionnez, notamment en élémentaire. Moi, l'idéal, c'est ça, des fois, de faire la classe. C'est plus de faire ma leçon, c'est d'apprendre aux enfants et leur donner les pistes pour qu'ils aillent trouver par eux-mêmes. Et c'est bien plus intéressant. À nouveau, c'est pas un hasard si je vous ai donné 3 documents sur comment démarrer en pédagogie freinée. C'est pour un petit peu instaurer, je pense que vous avez senti pourquoi, du moins. Le but, c'était pas de lire les 3. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être regardé celui-là en diagonale parce qu'ils voulaient un truc un peu plus poussé. D'autres, le témoignage de Sylvain, ils voulaient peut-être plus quelque chose de concret. Il y avait marqué Sylvain, c'était plus personnel, ils sont allés sur celui-là. Et puis d'autres, ils se sont dit, tiens, il y a une synthèse. Oups, moi je suis plutôt synthétique, je suis allé voir la synthèse. Donc, je doute qu'il y en ait beaucoup qui aient lu tout. Après chacun, on donne, et puis les enfants vont voir, et nous c'est pareil, on va voir, on va chercher, on a à notre disposition. Et puis il y a ceux qui se disent, moi pour l'instant je préfère voir, je vais les écouter parler, et puis après le stage, si ça m'a intéressé, j'irai voir. Donc vous voyez, il y a toutes les démarches, et de choix de documents, et dans le temps, etc. Et des thèmes, il y en a plein, donc il y a l'oral, les droits de l'enfant, coopérer, le travail autonome, les langues vivantes, le travail d'écriture, le journal, etc. Alors, avant de vous donner le document, je vous donne justement l'histoire de changer le regard, changer son regard. généralement, quand j'en discute avec les PE2, les gens qui démarrent, en gros, la question de l'autonomie qui se pose, c'est celle-là. C'est comment gérer au mieux le temps libre des enfants. Là, son idée de faire les exposés, c'est sympa, ils vont être en temps libre. Ou de faire, tiens, je fais une leçon d'histoire, au lieu de la faire à 24 pendant une heure, je vais faire deux groupes. Mais ça veut dire qu'il y a un groupe pendant une demi-heure qui va être en temps libre. Comment je vais faire? Ou souvent, ce qu'on entend, c'est, ah oui, avec la pédagogie différenciée, il faut proposer des choses différentes, mais des fois, il y a des enfants qui finissent plus tôt. Comment je gère ça? Les enfants qui finissent plus tôt, il faut que je leur propose des choses, qu'est-ce que je leur propose? Donc ça, c'est généralement la première question qu'on se pose. Moi, le précepte que j'ai, c'est avant tout d'avoir des bonnes réponses, mieux vaut avoir des bonnes questions. Et je pense que ça, c'est une très mauvaise question. Comment gérer au mieux le temps libre des enfants? Et vouloir chercher à répondre à ça, vous allez perdre votre temps. D'accord? Donc des fois, on se pose, et c'est pour ça que c'est intéressant à nouveau d'être toujours à plusieurs, il est peut-être plus intéressant d'avoir, plutôt que je vous donne plein de réponses à une mauvaise question, moi je trouve que c'est plus intéressant que je vous donne des bonnes questions et que vous cherchiez après avec les témoignages. Et... Alors je vais expliquer pourquoi c'est une bonne question, une mauvaise question. Donc, comment gérer au mieux le temps libre? Ce qui est bien déjà, c'est que au moins vos enfants, quand ils ont fini, ils peuvent faire quelque chose. D'accord? Vous avez, vous faites un exercice, ils ont fini, les plus rapides, ils peuvent faire prendre un livre, faire un dessin. Et, déjà c'est bien parce qu'au moins ils ne s'ennuient pas, ils ne sont pas à rester à leur chaise. Mais le gros inconvénient qu'il y a derrière ce genre de réflexion, c'est que généralement, ça va être qui va être toujours en autonomie et qui va avoir le droit à ces petits bonus. Vous savez très bien quel type d'enfants vont avoir sans arrêt droit à tous ces bonus et qui va galérer systématiquement et à chaque fois va se faire taper sur le doigt. Dépêche-toi, les copains, ils attendent. Et en plus, ils sont en train de faire des exposés, des dessins. Et moi, je suis en train de faire l'exercice 3, page 23 du truc de Becherel. Ça me saoule. Voilà le gros inconvénient de cette question. Alors certes, il y a beaucoup d'avantages. Alors comment pallier à ça? Il ne faut pas chercher à y pallier, c'est que se dire peut-être la question elle est peut-être mal posée, c'est peut-être intéressant de voir un peu les choses autrement. Et peut-être la question à se poser, elle est écrite là, vous n'avez pas besoin de la réécrire, et écoutez-la plutôt. C'est, vous le retrouverez détaillé dans le document que je vais vous donner, c'est plutôt comment articuler les temps avec l'enseignant, avec des temps de travail autonomes pour tous les enfants. Comment faire en sorte que dans la classe, il y ait les temps où moi je peux donner des informations, aider, aiguiller, les aider à s'entraîner, les soutenir, etc. Et comment ça peut s'articuler avec un temps de travail autonome pour tous, pas que pour les plus rapides, que tout le monde et ses petits temps puissent goûter à la joie de s'organiser, de chercher à choisir un travail, etc. Et vous serez étonné d'ailleurs, quand on les laisse choisir leur travail, je peux vous assurer qu'il y a des enfants qui vont vers le travail et pas que vers les choses les plus plaisantes. D'accord? Alors que quand vous voulez tout cadrer, là, ils vont vers le jeu parce que vous leur en donnez trop. Mais quand à l'inverse, c'est plus souple, que vous assurez, vous serez bien étonné de voir des enfants qui vont chercher, qui vont en maternelle écrire leur prénom, qui vont vouloir faire le fichier de grammaire, pas le plus facile, le plus difficile. Alors que quand vous leur donnez un exercice pour tous, ils cherchent toujours le plus facile. Dans ces cas-là où c'est eux, ils voient l'intérêt, je peux vous dire qu'ils cherchent le boulot. Donc l'idée, c'est plutôt essayer de passer d'une question à qu'est-ce que je fais finalement quand mes élèves ont terminé, à comment je peux mettre du temps de travail individualisé, du travail autonome pour tous, à tous les moments. Donc le pourquoi, je pense qu'il est pas mal défini, vous le retrouvez là-dedans, et le comment, vous l'avez aussi dans le document, et puis on va écouter des collègues avec le plan de travail, notamment Sandrine. Non.
Alors le plan de travail, en fait, moi j'ai des petits grands, bon j'ai eu des élémentaires, j'ai eu des petits moyens, j'ai eu des petits purs, et il y a quelques années j'ai cherché un système pour travailler différemment. Donc au début c'était ce qu'a écrit Mehdi, c'est-à-dire comment gérer les enfants quand ils avaient fini le travail habituel en atelier pendant une demi-heure et que les meilleurs avaient pu faire leur travail et qu'il fallait s'occuper de ceux en difficulté. Et petit à petit, au contact des collègues, en rentrant au GPM et en travaillant, j'ai modifié ma pratique avec un système qui s'est, je ne sais pas si on va dire amélioré, mais en tout cas qui a changé au fur et à mesure des années et qui me convient davantage. Donc sont des systèmes de grilles Excel, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, avec les prénoms d'un côté et les petites cases de l'autre, qui me servent pour pouvoir mettre... Donc je photographie en début d'année, c'est le gros du travail, la totalité des jeux que j'ai à ma disposition dans la classe, et au niveau institutionnel, je fais par période, avec les compétences pour chaque jeu, les domaines, qui correspond à chaque jeu. On va donner un exemple tout simple, les algorithmes avec les perles et les petites bandelettes qu'on a quasiment tous dans nos classes de maternelle, compétences observer, trier, prolonger un algorithme simple, compléter un objet, confectionner un collier à 2, 3, 4 couleurs. Ça, c'est au niveau institutionnel pour qu'on ait, je le fais par période en début d'année. Après, on a ce type d'outil qui est donc le plan de travail en lui-même, sur lequel donc on a un petit tampon qui permet pour nous, enseignants, de mettre la date et de savoir ce que chaque élève a fait en fin de journée et de pouvoir se rendre compte du travail accompli, puisqu'on a quand même des demandes, avec en haut un rappel de tous les petits ateliers. Et pour les enfants, parce que c'est quand même ça qui est le plus clair.
Donc là, il y a les prénoms, les ateliers en haut et tableau de l'entrée, tampon quand c'est...
Alors ça va vous paraître très fouillis parce qu'il y a tout, dans la mesure où il est évident que sur une semaine, je ne m'amuse pas à mettre, ou sur 15 jours, parce que moi ce sont des périodes de 15 jours, à mettre forcément tous ces ateliers. J'ai ce type d'images qui sont quasi permanentes, c'est-à-dire que... du découpage libre, le coin écoute, du modelage avec des fiches, je l'ai. Si on reprend ici sur le modelage, par exemple, j'avais, je ne sais plus, fiches 5 et 6 ou fiches 3 et 4, dire que en pâte à modeler, ils peuvent remplir des contrats et faire des choses différentes. Ils s'inscrivent en dessous et on a par journée une quantité d'enfants maximale, en tout cas par demi-journée, puisque j'ai des petits et des grands, et que les petits ont la priorité le matin et les grands l'après-midi. Le fichier phonologie, c'est pareil, ce sont des fiches, et il y a des numéros de fiches, donc sur une période de 15 jours, je mets en place, par exemple, le 3 fiches. Et ils ont ces 15 jours pour pouvoir faire ces 3 fiches. Il peut arriver, malgré tout, qu'on ait des enfants qui, à la fin de la deuxième semaine ou le jeudi, n'est toujours rien réalisé, et là, malgré tout, on rappelle quand même à l'ordre, mais comme ça s'est mis en place quasiment au début de l'année, et qu'au fur et à mesure, c'est complexifié, maintenant, c'est de plus en plus rare. Il y a quelques grands encore qui ne jouent pas le jeu, sachant que pour les petits, j'ai un deuxième tableau identique, et que je mets beaucoup moins de choses. Après, par rapport à ces choses qui sont... plus ou moins autonome, je fais une photocopie du travail individuel que je vais mettre aussi ici et sur lequel ils vont s'inscrire. Et ce document, à la fin de la période, donc à la fin de la quinzaine, est synthétisé. J'ai la totalité du travail qui a été réalisé par tous les élèves de ma classe, tous les petits et tous les grands. Les enfants ont la trace de ce qu'ils ont fait, ça dépend. Quand c'est du découpage libre, j'ai une boîte avec des papiers, des catalogues, il y a forcément une production à la fin, donc ils ont une trace. Quand c'est de la pâte à modeler, j'utilise beaucoup l'appareil photo, donc clic-clac, appareil numérique, et on a une trace aussi. Sur le fichier phono, on photocopie la page quand il y a besoin, mais l'intérêt, c'est pas forcément qu'il y ait une trace, parce que ces fichiers, on travaille avec le Velleda ou le crayon d'ardoise, on peut se tromper. Le but pour moi, dans tous ces ateliers, c'est pas forcément... d'avoir une trace ou de garder une trace qui va aller dans un cahier, c'est plus qu'ils apprennent et qu'ensuite, au moment où il va y avoir une réelle évaluation, puisqu'il y en a quand même, hein, comme dans toutes les classes, on ne fasse pas une évaluation en ayant deux tiers de la classe qui va réussir et puis un tiers qui n'a rien compris, mais que chaque enfant fasse son évaluation au moment où il est prêt. Dessin libre, bon, il y a leur dessin... ordinateur, je choisis des programmes. C'est-à-dire qu'on a différents programmes et je vais plus les envoyer sur un programme et je vais carrément le mettre en route le matin. Les puzzles, donc j'ai fait les photos des puzzles, donc je sais quels puzzles ils font au fur et à mesure, et je fonctionne avec le système de tampon, donc quand c'est fait, je valide comme ça. Toi, tu as le clavier de...
Oui, voilà, voilà. Juste pour pouvoir compléter. Pour compléter ça, moi, tu vois que j'ai mis en place l'autre jour aussi un plan de travail. C'est des moyens.
Les clavier, elles sont intéressantes, très simples.
Et donc, ils ont, pareil, un choix d'activité, donc en plus, moi, ils ont un travail d'entraînement, un travail avec la TSEM ou avec moi. Bon, ils ont du coloriage et ils ont un travail sur cahier, donc ils peuvent prendre, aller prendre leur cahier. Donc c'est du travail en début d'année, parce que c'est pareil, ils peuvent copier les exemplaires de puzzle ou les dernières photos. Et donc ils ont ça, et à chaque fois qu'ils ont fait un puzzle, ils ont les tangrammes, ils ont... voilà, et on met un revers, on met le tampon quand ils ont fait une réalisation. Qui augmente au fur et à mesure de l'année, parce qu'il y a les difficultés qui avancent. Avec plus de puzzles, plus de morceaux, pour les tangrammes, plus de difficultés sur les formes à faire, etc. Avec des jeux sur les jeux de prélecture et tout ce qu'on peut avoir à la suite. Mais je le mets au fur et à mesure qu'ils ont fini une fiche, en fait. Ils ont une petite étoile et on rajoute la fiche suivante, la fiche numéro 3, la fiche numéro 2. Donc ils ont ça dans leur cahier et ils vont le chercher systématiquement quand ils sont pas, quand ils sont en temps de plan de travail, dans mon emploi du temps. Voilà, ils vont chercher leur cahier, ils font des choses sur le cahier. C'est pour compléter le système. C'est comment dire, un gros travail et dans le temps et dans l'espace de début d'année. C'est-à-dire qu'en début d'année, j'avais pas le cahier, mais je leur ai montré tous les espaces où on pouvait aller quand on avait ce temps de travail qui va être quand moi j'ai un groupe, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut gérer son temps, etc. Donc il y a eu un gros travail sur les espaces disponibles dans la classe, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça nous fait travailler, etc. Et après, la mise en place du cahier, ça prend du temps parce qu'il faut leur expliquer aussi. Et c'est un temps qui dure jusqu'aux vacances de Noël quasiment, de la Toussaint Noël, pour leur expliquer comment ça fonctionne. Mais là, en moyenne session, ça y est, hein, ils prennent leur cahier dans leur casier, ils mettent le tampon. Mmh. Ils sont tout à fait autonomes sur ce temps-là.
J'ai une question,
je suis
en CM2 et j'ai débuté avec la PFD. Et j'ai mis en place dans la classe des plans de travail. En fait, aujourd'hui, je suis là pour essayer de voir ce qui me manque pour rentrer dans ce qu'on a appelé tout à l'heure la vision politique.
Ah oui, on va se poser.
Les enfants sont très autonomes dans la classe. J'ai des plans de travail pour les rentrer.
Tu peux venir là ? On te lever, mais là, tout le monde verra plus facilement que. Moins de gens qui se tordent le cou là. Que...
Ouais. En fait, je fais des. Bon, c'est cloisonné dans le sens où c'est maths et français. Et les enfants, bon, j'ai des leçons quand même assez classiques, on peut le savoir. Et après, ils ont un tableau comme ça. En fait, il y a des premières fiches comme ça qui sont des évaluations diagnostiques. Bon, magique, ouais. Et en fonction des résultats de l'évaluation diagnostique, donc c'est là. Donc là, c'est un super bon cahier, c'est ça que j'ai trouvé hier. Mais... Et en fonction de ça, bon, j'ai des codes couleurs, on expliquera après. J'envoie les enfants en fonction de ce qu'ils ont réussi, soit en remédiation, donc là, et c'est tout prêt. Et puis les exercices en fonction de la compétence précise qui n'a pas été comprise. Soit, et je reviens un peu à ce qui a été dit tout à l'heure, pour les élèves qui sont très très bons, du coup ils n'ont pas besoin, alors il y a des forces, hein, force 1, force 2, force 3, et du coup les élèves qui sont très très bons font pratiquement du hors programme, parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de refaire, voilà. Donc parfois ils font carrément peut-être 6e, enfin, ils sont contents hein, de faire ça, ils le savent. Et alors au début, avant de commencer le plan de travail, donc je présente quand même toutes les compétences, ils ont une espèce de graphique sur lequel il y a tous les exercices. Et en fait, quand on fait la moitié du plan de travail, ça correspond à 100%. Et tout le reste, c'est en plus. Donc, ils doivent se donner un objectif. Donc, ils mettent une croix. Du coup, ils ont une gratte. Et pour chaque point de couleur, donc vert, c'est réussi. Bleu, c'est... Ah, non, pas l'expliquer. Ils ont le droit de colorier pour bleu et vert une ligne. En fait, ils voient leur progression. Ça leur permet de voir aussi, par exemple, elle, En une journée, elle fait 5-6 exercices, quoi. Il y en a d'autres qui en font qu'un seul, mais bon, voilà. Et le code couleur, donc c'est vert quand ils ont réussi, bleu quand ils ont besoin d'une correction. Alors, ils utilisent ce que j'appelle, enfin, ce qu'on appelle, je n'ai pas inventé, hein, je l'ai trouvé sur Internet, un tétraède. C'est sur le site de Bruce de Mauges. Donc, c'est un tétraèdre. Avec des pointes de couleur. Donc vert, c'est j'ai besoin d'être corrigé. Donc moi, je passe. En fait, je passe mon temps à courir. Donc je passe, je regarde si c'est bon, je valide, point vert, on passe. Point bleu, enfin, je leur mets un... Donc, ouais, j'ai besoin d'être corrigé. En bleu, enfin, je ne sais plus le code, c'est besoin de correction. Ceux qui le connaissent, bon, c'est le plus. Tout va bien. En vert, c'est tout va bien. J'ai besoin d'être corrigé, j'ai une question non urgente et au secours, je me noie. Rouge. Donc quand on voit rouge de loin, hop, on court, parce qu'on a un souci. Et donc bleu, c'est juste après correction, donc c'est un peu une évaluation informative. On les aide, on les envoie à des endroits où ils peuvent trouver des réponses à leurs questions, et puis ils ont une deuxième chance, entre guillemets. Et on voit qu'au fur et à mesure, bon là c'est une bonne élève, du coup c'est pas flagrant, mais au départ on a pas mal d'orange pour les élèves en difficulté. Orange, on voit que ça va plus du tout. Là, on laisse tomber, on fait un atelier, enfin, on laisse tomber pour l'instant. Et on voit qu'au fur et à mesure, ils essaient de chercher pour éviter le orange. Donc, plus ça va, moins il y a de orange, parce que déjà, ils acquièrent une bonne utilisation de tous les outils. Il y a plein d'outils en classe. Hein. Et en plus, quand il y a un souci, ils peuvent s'inscrire sur un bilan, au bilan, ce qu'on fait à la fin. Donc, ils s'inscrivent, ils viennent expliquer à la fin. Leurs soucis, et c'est une interaction entre eux. Moi, j'essaie d'un peu de gérer, mais c'est vraiment entre pairs. Et ils expliquent leurs documents. Alors moi, ma question là, c'est voilà, je fais ça là, je fais en orthographe, en histoire, mais ça reste quand même un peu décousu. Et en quoi l'extérieur, enfin Freinet, c'est la copie, enfin, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu hier soir, j'ai tout lu. c'est la coopération et en même temps toute la vie des enfants et la vie de tout le monde qui entre dans l'école, et comment passer de ce que je fais là à laisser la vie en général. Enfin, en français, j'arrive pas à le comprendre, et en maths. Voilà.
Alors, petite question facile. Elle a potassé toute la soirée pour poser la question. Alors, donc blague à part, la question elle est passionnante et très, très intéressante, parce que ça permet finalement de resituer, de montrer que le plan de travail, c'est pas qu'un simple outil et que ça doit être remis dans un ensemble. Peut-être pour y répondre, rapidement, un autre plan de travail derrière, et que je vais utiliser pour étayer ma réponse, qui est un plan de travail qu'on utilise, là on a vu deux pour la maternelle,
oui,
donc il en existe, et des collègues les utilisent au cycle 2, on utilise au cycle 3, avec des choses moins de dessins, plus de petites choses. Voilà. Je vais être volontairement caricatural pour bien faire comprendre les choses, et d'être même provocateur. Moi j'ai envie de dire, par provocation, que la première utilisation que j'ai du plan de travail, elle est complètement dénuée de tout, elle est aux antipodes de ce qu'elle a montré. C'est-à-dire je caricature. Hein. Elle est dans un... Moi, si j'avais à retenir une utilité du plan de travail, ça ne serait pas celle-là. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important. Hein. Au contraire. Elle serait que le plan de travail, ça serait pour non pas faire en sorte qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont apprendre, etc., et où ils en sont, etc., mais tout simplement pour, ce que je disais tout à l'heure, permettre aux enfants non pas de savoir forcément où ils en sont, mais déjà de savoir qu'est-ce qu'ils vont apprendre, qu'est-ce qu'ils vont faire. À un moment, dire « je vais faire des maths », et bien je sais que je vais faire des maths puisque je me suis inscrit à faire des maths. Je vais faire de l'orthographe, je me suis inscrit et je sais que je suis dans une logique d'orthographe. Combien de fois les gamins dans vos classes, et encore plus en maternelle, mais je suis persuadé qu'en cycle 3 c'est la même chose, savent même pas ce que vous êtes en train de faire. Ils savent plus ou moins la matière, mais les enjeux, le pourquoi on est en train de faire ça, etc. Et moi, ce que je vois derrière le plan de travail, c'est beaucoup quelque chose pour réconcilier un petit peu les enfants avec la classe. Et l'image que je donne, en gros, c'est tiens, ce document, c'est les clés de la classe. je ne suis pas le seul à tenir les clés de la boutique, et ben je les partage avec toi. Tu vois, tu vas pouvoir aussi organiser toi-même ton travail. Je ne sais pas si je suis clair ou pas. Je ne suis plus, moi, le seul maître à bord. Tu es aussi, avec moi, à un moment donné, acteur de ce qui se passe à l'école. Alors certes, je vais donner un cadrage. Les collègues, on a vu dans leur plan de travail, ils vont donner un certain nombre d'activités à faire dedans. Tout, c'est pas je te laisse 4 heures dans la semaine ou 3 fois une demi-heure ou qu'une demi-heure et tu fais ce que tu veux. Là, vous voyez, il y a un certain nombre d'activités à faire. Je vais prendre un, celui-là, il est peut-être plus clair. Il y a des activités obligatoires en haut. L'enfant, il doit faire au moins un coloriage magique, une création graphique, une évaluation sur les nombres et un entraînement en écriture. Et puis d'autres ateliers facultatifs. Mais il doit faire au moins les 4 de façon obligatoire dans la semaine. Donc vous voyez la rupture avec le fonctionnement qu'on a habituellement, qui est, en gros, le premier jour de la semaine, mais ça revient à peu près au même, ça a une autre forme, le premier jour de la semaine, on fait tous les coloriages, deuxième jour, on fait tous les créations, troisième jour, on fait tous l'évaluation en même temps, et quatrième jour, on fait tous... Elle va nous donner le mal de mer. Voilà. Donc là, c'est l'enfant qui va organiser par lui-même son temps. Après, avec plein de subtilités. C'est-à-dire que le but, c'est pas non plus de laisser l'enfant complètement se débrouiller tout seul. L'entraînement en écriture, il peut choisir de le faire à un moment donné où moi, je suis disponible pour que je puisse l'aider à ce moment-là. C'est-à-dire que je vais lui dire dans la semaine, il y a tel temps où les autres peuvent travailler seuls, mais là, moi, je suis là. Donc, à nouveau, ce travail-là, ça ne veut pas dire forcément les enfants sont tout seuls. Ils peuvent vous demander un travail, vous demander de l'aide pour faire quelque chose. D'accord ? Et puis d'autres le feront tout seuls. Donc pour moi, l'idée avant même de faire en sorte qu'ils sachent où ils en sont, qu'ils organisent un peu ce que tu as montré de façon très intéressante et très poussée, avant même, c'est l'idée, c'est de donner les clés de la classe et de faire en sorte que les enfants s'approprient un petit peu le qu'est-ce qu'on fait à l'école.
Et...
Alors... Ben, il est brûlé au bûcher au niveau de la commune, hein, puisqu'on est plusieurs à fonctionner comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai plus que 5 enfants en fin d'année, c'est ça le gros avantage. Alors, en fin de semaine, il y a en bas un moment de bilan, de commentaire. Et ben, on essaie de voir pourquoi ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui a bloqué? Et on en parle. Plutôt que moi à nouveau de tout faire en sorte que ça marche, ben, je laisse les possibilités que ça ne marche pas. Et après, on essaie de voir. Est-ce qu'il a été fainéant? Bien que, après, moi, j'attends pas. Alors ça, c'est des vieux qui étaient par semaine. Maintenant, je l'ai fait sur 2 mois. C'est un peu le même principe, mais ça dure 2 mois, avec plus de cases, etc. J'attends pas les 2 derniers mois pour m'intéresser aux enfants limites. Il y a des enfants, on sait, je peux vous assurer que toutes les cases, elles sont remplies. Donc, eux, je m'y intéresse pas. Et les 2-3 enfants dont tu parles, eux, je ne vais pas attendre, si c'est une semaine, le vendredi soir pour m'intéresser à son plan de travail. Peut-être, la première semaine, je vais laisser courir. La deuxième semaine, là, par contre, je cadrerai davantage. Donc, plutôt que punir à la fin, je serai plutôt en position de prévention et de cadrage un petit peu avant, si nécessaire.
Le problème se repose, si c'est sur 2 mois, pour les enfants qui ont tout fini au bout d'un mois.
Après, il y a.
Ils vont faire que du facultatif, plus ou moins du domaine des apprentissages du moment, et plus ou moins surveiller.
Ils en font forcément tous autant, puisqu'à chaque atelier, ils pointent quelque chose. Donc sur la quantité, et ils sont obligés de faire, en tout cas, moi, c'est mon fonctionnement, de faire des obligatoires, moi, de faire en sorte qu'à la fin, les obligatoires soient faits. Et j'ai pas envie, non pas que je ne vais pas mettre en touche, mais des fonctionnements, il y en a un autre là, il y en a un autre. Là, on est dans les subtilités, certes, qui sont importantes, mais à nouveau, sur une matinée comme ça, on ne peut pas en faire l'objet d'une discussion trop approfondie. Voilà.
C'est également un objet d'apprentissage. C'est à nous de leur proposer des choses qui vont leur permettre de grandir dans la classe, de tourner dans la classe et de devenir autonome. On ne peut pas exiger dès le début de l'année d'un enfant qui n'est pas autonome, qu'il ait parfaitement réussi son plan de travail, qu'il soit allé jusqu'au bout. D'où l'importance des bilans à la fin des plans de travail pour faire le point avec l'enfant sur ce qui lui a posé problème, comment faire pour l'aider ou pour que lui-même trouve les ressources pour pouvoir remédier à ses difficultés tout seul, sans nous ou avec les camarades, parce que les camarades sont quand même très importants dans ce type de dispositif. Et en aucun cas, on ne doit considérer que les enfants sont dans nos classes tout de suite dans le bain. Il y en a qui mettent énormément de temps à s'adapter au système du travail individualisé et de la liberté qu'on leur laisse. Il y en a qui mettent beaucoup, beaucoup de temps.
À la fin de la période du plan de travail, vous faites un bilan collectif et individuel ou seulement individuel de l'enfant face à son plan de travail? Est-ce que vous faites aussi un retour collectif sur...
D'accord. Et ta question?
C'est ma question. Comment s'organise le bilan?
Je me permets de finir la réponse à ma collègue et puis après on répond tout de suite pour... Donc, pour moi, un, on donne les clés. Deux, ce qu'a dit Céline qui est fondamental aussi, pour moi finalement le plan de travail c'est presque plus qu'un temps sur les mathématiques, l'histoire, la pâte à modeler, ce que vous faites, c'est un temps où on va apprendre à être autonome. Et apprendre à être autonome, ça ne s'apprend absolument pas en se jetant dans la piscine, tout seul. Il y a peut-être des bouées, des cadres, des règles à donner en début d'année. Les premières semaines, le premier mois, ce sont des moments où on va... Le plan de travail, quand je vous parlais de faire une séquence tout à l'heure, ben la première demi-heure, moi je serais peut-être là avec tous les enfants pour leur apprendre à faire leur choix. C'est sûr que si vous venez nous voir maintenant dans nos classes maintenant, ça n'a rien à voir avec une classe qu'on a au mois de septembre. Parce qu'au mois de septembre, on va leur donner peut-être d'abord quelques bouées. Alors je donne une image pour en maternelle par exemple. Moi, ils mettent, au début de l'année, ils me disent l'activité qu'ils veulent et moi je mets un coup de tampon sur là ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils en sont à choisir ce qu'ils veulent faire, regarder sur un tableau où on s'inscrit, parce qu'on ne peut pas être plus que 3 enfants en atelier, donc il faut aussi s'inscrire à un endroit, voir où sont les autres, voir si moi j'ai des activités obligatoires, et il faut que je m'inscrive. Ça, ils le gèrent maintenant parfaitement, mais ils auraient été incapables de le faire en septembre. D'accord ? Donc c'est très progressivement. Donc c'est un moment donc, où enfin les enfants peuvent comprendre qu'à l'école on apprend, ils sont partie prenante, et on les rend davantage disponibles, premier axe. Deuxième axe, on apprend aux enfants à être autonomes, et là je vous renvoie à toutes les compétences sur le socle commun, les compétences 7 du socle commun avec l'autonomie, l'initiative, vous avez un certain nombre de compétences qui sont même reprises maintenant par rapport au cycle 2 et au cycle 3. Et donc ça c'est le deuxième point. Et enfin le troisième point par rapport à la vraie vie, il faut absolument que ce plan de travail, ça ne se cantonne pas à une série d'exercices. Il faut que peut-être à l'intérieur, certes, il y a des exercices pour remédier aux difficultés qu'on a et avancer. Moi, je vous avouerai que j'en ai très peu. C'est plus parce que ça, ils vont plutôt le faire avec moi. Et même quand c'est des exercices, j'aime bien être là pour aider, et notamment les plus en difficulté. Et c'est important, et on le voit dans celui-là, d'y mettre aussi, bah, peut-être, recopier une poésie avec de l'encre de Chine, peut-être faire un texte pour le journal, peut-être faire un exposé, du dessin libre, faire une bande dessinée, qui est aussi un espace pour des projets un peu plus ouverts, plus variés, plus ouverts sur la vie. C'est peut-être ce qui manquerait et ce qui compléterait ce qu'a dit la collègue.
Donc un plan de travail global, quoi. C'est
plus global. Celui qui est là rejoint un petit peu ça. Dans les cases qu'il y a là, on retrouve globalement ce que tu fais toi, et en dessous, on voit la responsabilité d'enfant, le texte libre qu'il a fait, la poésie. Donc d'avoir quelque chose, non pas que je balaye ce qu'a fait la collègue, elle l'a montré, donc là je montre les autres possibles. Il y a d'autres possibles que uniquement une batterie de travail. Et à nouveau, par rapport à ce que j'arrête pas de vous bassiner depuis le début, les deux vont être plus qu'en interaction. Le gamin qui tout d'un coup a envie de vous faire un article de journal ou un texte, une histoire, au bout d'un moment, si pour le publier, il faudra arrêter de faire des fautes d'orthographe, faudra du vocabulaire. Donc vers quoi il va se tourner à votre avis pour enrichir? Ben vers le scolaire, vers les exercices. Et là tout d'un coup les exercices, c'est plus l'exercice 3 page 27, c'est l'exercice qui va me servir à enrichir ma poésie, à améliorer, à corriger mon texte que j'ai envie de diffuser à d'autres classes. Vous voyez? Et ça vient. Donc tout d'un coup le scolaire, il ne tourne plus en vase clos et puis les projets à côté, c'est tout d'un coup, tiens, les deux viennent se nourrir mutuellement. Et là, ça dialogue et là tout est gagné. D'accord ? C'est à nouveau, c'est par plaquer du vivant à côté.
et de faire l'autre à côté. C'est comme je disais la collègue, pour les classes, on maintient CE2, CA, et puis on met les classes de cycle, et puis on a deux choses. Non, il faut qu'à un moment après, tout ça, ça se brasse, et puis qu'on arrive à une alchimie. Voilà. Ça paraît à la fois très complexe, tout de suite la parole à Céline, ça paraît très complexe, et c'est à la fois très simple. Parce que c'est des choses qui doivent se mettre doucement, avancer chacun à sa vitesse, tranquillement, à plusieurs, avec les enfants. Voilà. Là, on vous donne plein de pistes, et je vais encore vous choquer. Moi, je ne mets même pas un quart de tout ce que je vous ai dit depuis ce matin. Je ne peux pas, je n'aurais pas le temps. Si je mettais en place tout ce que je vous disais depuis ce matin, je ne dormirais plus. Du moins, Et est-ce que c'est pas faisable? Chaque année, je mets des petites choses. Et puis, tant mieux que ça se recrée avec les enfants et qu'ils soient partie prenante. Parce que si je mettais en place tout ce que je vous disais, ça veut dire que les enfants, ils n'existeraient pas. C'est moi, le maître du monde dans ma classe, qui maîtrise tout. Et le problème, c'est que je ne suis pas tout seul dans ma classe. J'ai des enfants et j'ai aussi des collègues. Et j'ai des parents tant qu'à faire, et j'ai un inspecteur. Donc il faut composer avec tout ce beau monde, et chaque année, c'est pas recommencer à zéro, mais presque. D'accord ? Donc voilà, c'est on y va tranquillement, et ce qu'on dit ce matin, c'est une palette. À nouveau, le but, c'est pas de se dire, bon, purée, tout ça, j'y arriverai jamais. Non, c'est une palette de plein de choses. Si vous utilisez une nuance, là, et deux, trois couleurs supplémentaires à la rentrée, super. D'accord ? Le but, c'est pas d'utiliser tout. Par contre, c'est moi ce que je vous conseille, c'est un peu de bleu, un peu de rouge, et on mélange les deux. Plutôt que prendre que le bleu, que le rouge, dans l'image, je ne sais pas si je suis clair ou pas, c'est prenez c'est pas deux choses et puis voyez ce qui se passe. Céline.
Moi, je voulais juste dire quelque chose pour rebondir sur ce que tu disais. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est qu'à la fin d'une période ou de l'année, ils aient validé des compétences qui sont les compétences officielles. Les modalités qu'on a dans nos classes pour y parvenir, elles peuvent être diverses et variées. Et en l'occurrence, en maternelle, même en grande section avec l'entrée au CP, que ce soit en faisant seul un fichier ou que ce soit en faisant 3, 4, 5 fiches obligatoires, où de toute façon, tu ne seras pas forcément disponible pour tes élèves parce que tu ne vas pas pouvoir être disponible pour 24. Après, c'est vraiment un choix personnel de fonctionnement. Avec le recul, quand ils choisissent de faire une fiche de phonologie, par exemple, et qu'ils le choisissent tout seuls et qu'ils savent qu'il n'y a pas ce jugement, parce que c'est une feuille de papier sur laquelle il y a la permanence du crayon ou du stylo, et que là, on se trompe, on prend une petite éponge et on efface et on recommence, et qu'on peut recommencer 2, 3, 4 fois jusqu'à présenter un travail qu'on a compris et qui est réussi. Au bout du compte, la compétence est acquise et peut-être qu'il y a des enfants qui vont être sur des activités facultatives plus souvent que d'autres, mais peut-être qu'eux ont besoin de ce temps de répétition, de rabâchage qu'on n'aurait pas forcément pu leur procurer dans une classe où, bon, ce matin c'est phonologie, 20 minutes de phonologie, vous avez tous compris que le son d'aujourd'hui c'est « ch », trouvez-moi, 20... voilà. Après, moi j'ai fonctionné longtemps autrement et... je pense que mes élèves en fin d'année avaient aussi acquis un certain nombre de savoirs et de compétences. Là, on leur laisse la possibilité d'aller à leur rythme. Et en fin d'année, on est surpris de voir qu'il y a beaucoup plus de compétences qui finalement sont acquises.
Est-ce qu'on peut...
Non, j'avais terminé. Je vais faire la parole à Céline.
J'ai juste une petite question par rapport à la commission de ces activités et de ces fiches. Est-ce qu'on est...
Alors, toujours juste un paramètre, c'est qu'il y a d'autres élèves dans la classe, et bon, on y viendra tout à l'heure, mais tu as des élèves qui ont des vraies compétences, et une fois qu'ils sont identifiés comme tels, les copains qui font ça de façon autonome et à des moments où il n'y a pas de jugement, peuvent aller voir celui qui est entre guillemets référent dans la classe. Quand ils viennent voir, enfin en tout cas quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils pensent avoir réussi, c'est parce qu'on est dans une démarche. Voilà, maîtresse, j'ai fini, maintenant je sais faire. Est-ce que tu peux valider le fait que je sache faire? Avant, c'est rare que sur ce travail autonome, on me demande de corriger. Ça peut arriver, puisqu'on me demande de prendre des photos et que les enfants, en maternelle en tout cas, ne vont pas prendre l'appareil numérique et faire des photos tout seuls. Après, en élémentaire, on pourrait imaginer des enfants qui prennent des photos. Je ne sais pas comment fonctionne Céline, elle va me la laisser parler, mais moi, je ne corrige pas tant que ça. Dans une journée. Le maître mot, je trouve, c'est qu'on est beaucoup plus libre avec ce type de pédagogie que, en tout cas, que je ne pouvais l'être quand j'étais sur une pédagogie plus frontale avec un emploi du temps bien carré. Et en fait, en fin de journée, tu corriges tes photocopies, tes feuilles, ton travail, et tu passes un certain temps.
Un tout petit point de cadrage pour ce qui me semble important et de repère concret. Je pense que pour commencer, pour démarrer, il n'est peut-être pas intéressant de se lancer tout de suite sur des mathématiques, de la grammaire, etc., en travail individualisé. De peut-être déjà lancer l'autonomie, faire en sorte qu'il y ait un système, un tableau sur lequel ils s'inscrivent, etc., les premières semaines, et vous y mettez, là il y a un tableau avec plein d'idées, un coin création, un coin écoute, où ils vont écouter des œuvres musicales, les peintures qu'on a vues, un classeur où ils peuvent aller feuilleter, le coin bibliothèque, un coin que dans leur casier, ils ont un texte, un cahier où ils peuvent écrire des histoires, un cahier où ils peuvent écrire, faire des dessins. Sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément, moi, je vous conseille de ne pas mettre 3000 choses où vous avez besoin d'être là pour corriger, pour les aider. Parce que sinon, tu vas être perdu. C'est-à-dire que tu vas avoir à la fois géré la correction, la problématique de la correction, et gérer en plus ce fameux groupe en autonomie. Dès lors que vous aurez avec eux, et qu'ils auront avec vous, de bonnes habitudes de travail, là, vous pourrez compléter avec des fichiers correctifs ou pas, voir quand est-ce que vous êtes disponible pour les aider à corriger, etc. Inventer des fonctionnements pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Mais avant de mettre la charrue avant les bœufs et de vous poser toutes ces questions-là, commencez déjà peut-être par la base, qui est tout simplement de les mettre en autonomie sur des petites activités simples où ils n'ont pas besoin de vous. Et parce que n'oubliez pas aussi l'idée, c'est que ça, même si ce n'est pas la finalité première, c'est bien utile d'avoir un groupe en autonomie pour prendre un groupe à côté en plus petit groupe. Donc si vous devez être avec votre groupe, faire votre leçon, et en plus vous avez à gérer toutes les 30 secondes les corrections, les machins, les trucs, vous ne vous en sortirez pas et les enfants non plus. Donc essayez de trouver, et sur le document qu'on va vous donner, il y a une liste à vous de voir après, mais plutôt de choisir pour démarrer, pour commencer, des choses où il n'y a pas besoin de correction, ou qu'une seule, en tout cas peut-être un texte libre, où en plus ça peut se faire de façon différée, où ils peuvent vous donner leur cahier, et puis vous pouvez faire la correction plus tard, ou en tout cas y réfléchir plus tard, et non pas sur le moment. Par contre, quand ils font des exercices, si du début jusqu'à la fin ils se plantent, ils n'ont rien compris, ils passent une heure à se planter, ça c'est peut-être pas intéressant. Par contre, si plus tard, avec l'expérience, vous avez déjà bien votre cadre et que vous mettez ça en place, vous direz, mais là, je peux mettre la coopération. Il peut y avoir peut-être un responsable qui va vérifier. Il y a différents petits protocoles comme ça que vous découvrirez au fur et à mesure qui vous apporteront des solutions. Mais plutôt que mettre un responsable pour la grammaire au début, ça va être peut-être un responsable pour apprendre aux enfants à dessiner quelque chose. Vous voyez, sur des choses déjà toutes simples. Un enfant, c'est un peu ce qu'on appelle les marches aux connaissances, un enfant aussi qui peut apprendre à d'autres à faire quelque chose. Commencez par des choses sans grands enjeux au début, pour vous sans grands enjeux, mais je peux vous assurer que pour les enfants, vous verrez que c'est des enjeux énormes, d'un moment de « je peux apprendre aussi aux autres à faire quelque chose ». Donc des choses simples, sans grande correction, où les interactions vont commencer à naître, et dès lors que ça sera mis en place, là, vous y glisserez tous les apprentissages et toutes les questions que vous êtes en train de vous poser. Mais à mon avis, chaque chose en son temps. Oui, Evelyne. Vas-y, Céline.
Oui, moi j'ai une question. C'est vrai que je suis dans le chat, on m'intéresse, donc je travaille un peu plus aidé, qui sous-entend qu'il y a aussi un travail qui est autre.
Oui.
Et donc, moi, je me retrouve avec un travail individualisé complètement, et maintenant un travail autre, où je retrouve toujours bien la maîtresse, un peu de terre. Là, je manque de vie. Voilà, parce que là,
je
les enfants moins chauds. Enfin, moi, j'ai du mal à organiser, mais en fait, c'est...
Oui,
mais... Après, vous êtes obligé d'être tout le temps sur le travail que choisit chaque enfant. Mm-hmm. Moi, c'est pareil, c'est ma sixième année, c'est la cinquième année où je fais de la pédagogie scolaire, et j'ai encore dans la classe des moments où je suis la maîtresse, on est en synthèse, en pédagogie plus ou moins active, quand même, parce qu'il y a des situations de recherche,
des phases de bilan, de mise en commun, d'institutionnalisation, de traces écrites, etc. Le truc qu'on apprend, il est faible. Et c'est indispensable. Les enfants ne peuvent pas tout déterminer tout seul. Et tu ne peux pas tout donner par miette aux uns, par miette aux autres, et au final, par être sûr que tout le monde a bien eu le savoir. Maintenant, c'est ce qui est, voilà, c'est la façon dont tu construis tes séquences collectives. Il faut qu'elle soit raisonnée et basée sur toutes les bonnes pédagogies quand même qu'on a à l'UFM, même aujourd'hui. Enfin, c'est pas incompatible. Le problème, c'est que les enfants apprennent quand même à gérer les deux types de temps. Les moments où ils sont libres et les moments où ils doivent aussi respecter la parole de l'adulte, être vraiment posé, assis, être attentif, participer, etc. Parce que malgré tout, pour l'avenir de leur scolarité, ils ont besoin de savoir faire ça. Au collège, c'est très rare de voir des enseignants qui fonctionnent avec des travaux individualisés, des temps de travail individualisés. Ils ont un prof qui est devant eux, qui leur promulgue de le savoir, et ils doivent les absorber. Sinon, qu'ils sachent le faire, qu'ils soient à l'aise dans cette situation également. On n'est pas là pour non plus les mettre en rupture avec le système scolaire.
Oui, parce que pour maternelle, c'est quand même assez important, dans le projet, et quand c'est par rapport au projet du tunnel de projet de classe, je trouve que, enfin, moi, en tout cas, j'ai mal à l'impression qu'il est trop court. Donc, je trouve que le problème est réalisé de plus en plus, parce que les enfants prennent leur part, et il y en a bien dans le projet de classe même, qui soit ainsi que j'ai pu voir, et puis.
C'est vrai qu'avant, entre la maternelle et la CE3, il y a
Après, moi, c'est vrai que j'ai ce fonctionnement en travail individualisé comme Flora, et à côté, je garde un groupe avec lequel on apprend des choses, on fait des choses numériques, on apprend des choses à résoudre, c'est un apprentissage. C'est en même temps, c'est pas. Il y a des temps. Donc je suis disponible dans le pays, à l'accueil, dans la communauté, etc. Là, on est avec le cahier ou sans travail, etc. Et il y a des temps dans la journée, quand on est en écriture ou en graphisme, bah, voilà, je les passe tous, on apprend tous à faire un geste. Après, à côté, il y a de la création, il y a d'autres façons de travailler ce geste, mais il y a un moment donné où il y a une. Il y a apprendre comment faire, il y a compter ensemble, il y a reconnaître les chiffres ensemble, on le fait en petit. C'est vrai que voilà, il faut quand même passer par ce moment-là et c'est pas incompatible les deux, c'est en commun. Il y a des temps pour ça, il y a des temps pour faire ensemble avec un apprentissage plus collectif et plus global. Dans un emploi du temps, les différents moments s'enchaînent.
Alors, il reste en suspens la question des réunions, en tout cas des synthèses. Il est 11h. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être de montrer le film. Après, il y a pause ou pas pause, sachant qu'il reste que, en gros, 45 minutes. Si on en fait une, il va nous rester 20 minutes après. Je pense que beaucoup sont venus. Je vous préfériez peut-être que ça soit concentré et puis qu'on ne prenne peut-être pas de pause. S'il y a vraiment une urgence, au pire, le film, vous le retrouvez sur le site internet en plus petit, du moins sur mon site internet, vous pourrez le retrouver s'il y en a qui vont. Mais ça, il peut être intéressant, à mon avis, à ce moment-là de la matinée, puisque ça reprendra en tout cas des préoccupations sur le. Et puis, comme on parle coopération et place de la parole de l'enfant, ce film aborde un peu ça. Or, certes, c'est des maternelles, mais à nouveau, ça, le gros avantage peut-être. Pour des CE, des cycles 2, cycle 3, de vous donner un peu ce qu'on peut faire avec des cycles 2 et des cycles 3 pour commencer justement, pas trop dans le scolaire. D'accord ? En gros, alors après en adaptant un peu ce qui est fait, mais ce qui est fait là, j'ai envie de dire, vous pourrez le faire tout à fait avec des moyens grands jusqu'au CM2. Alors bien sûr, en adaptant légèrement les situations, les supports que les enfants ont, vous allez voir, ils vont faire peinture. Et encore, même ce qui est fait en peinture, par des grands, ça pourrait être fait. Et vous allez voir un petit peu l'articulation. Bah justement des temps de collectif, des temps de travail de l'enfant et des regroupements après, voir un petit peu comment tout ça s'enchaîne. D'accord ? Est-ce qu'on fait comme ça ou est-ce que on regarde le film ? Donc c'est une classe avec uniquement des enfants de grande section. Ce que je peux faire aussi, c'est vous faire passer le document sur l'autonomie Comme ça, ceux qui veulent soit regarder le film ou avec une double commencer à regarder, si vous avez encore des questions après sur l'autonomie par rapport au document, ça laisse les gens faire ce qu'ils veulent, soit regarder, écouter, lire, ou les trois en même temps, parce qu'il y en a qui sont capables de faire les trois en même temps. Donc, ça, si tu peux le. Donc, c'est l'autonomie.
C'est sous-titrage, hein, c'est.
Alors, c'est une des rares fois où j'ai eu que des grandes sections. Parce que maintenant, vous avez compris, je pense qu'on cherche, nous, plutôt à avoir des classes de cycle, essayer d'avoir au maximum. Là, cette année, par exemple, j'ai des petits et grandes sections. Alors, ça, on en reparlera tout à l'heure aussi dans l'aspect coopération, qui est bien plus riche qu'une classe de grandes sections pure.
Donc, on va d'abord regarder la classe ça pourra pas être plus fort, qui est prévue cette semaine. Ensuite, on va rapidement compter les enfants. Et après, on organise le marché au savoir pour cette semaine et on voit ce dont vous avez besoin pour cette semaine.
C'est quelque chose qui est relativement nouveau dans ma classe puisque là, on est au mois de décembre. C'est quelque chose que je lance, que j'ai commencé à lancer progressivement depuis le mois de novembre. Donc c'est quelque chose qui a un mois d'existence dans la classe. J'ai deux types de fonctionnement. Donc un premier fonctionnement que j'utilise pas mal en début d'année qui va articuler des temps de travail individualisés et des temps où les enfants vont être avec moi sur des projets spécifiques que moi j'ai lancé. Des moments où c'est moi qui suis un petit peu à l'origine des projets du travail qui est fait en classe. Et là, le travail individualisé va se faire en parallèle des moments où les enfants vont être avec moi. Donc c'est vrai que ça va être plus des moments où j'envisage le travail individualisé comme des moments où les enfants apprennent à déjà travailler seuls, à choisir leur travail, à s'organiser par eux-mêmes. Arrive généralement après les vacances de la Toussaint une volonté aussi des enfants d'aller beaucoup plus loin dans ces projets, et je me suis rendu compte que ma présence était aussi assez importante lors de ces moments de travail individualisé. Et là, on le voit bien pendant la semaine du film, c'est vraiment une semaine où je me suis complètement consacré, là, cette fois-ci, au travail et au projet naissant des enfants.
Alors, on passe au marché au savoir.
Oui.
C'est un soir de loin. Est-ce que... Alors, Augustin et Alexandre, est-ce que Alexandre, Augustin, t'as bien appris à faire les sapins? Est-ce qu'on peut l'enlever, c'est réglé? Est-ce que Thomas, Gauthier, Lisa, Téville, je crois que c'est Léo qui en a... Apporter. On commence par les enfants qui ont envie d'apprendre à faire quelque chose. Qui aurait envie d'apprendre, de savoir faire quelque chose, mais qui ne savent pas encore le faire et ils auraient besoin de quelqu'un pour le faire. Alexandre, de quoi as-tu besoin? Viens ici.
Un balai.
Alors, viens là, tu dis la phrase en entier. J'aimerais apprendre à dessiner des balais. Voilà. Alors, qui se propose pour aider Alexandre? Est-ce qu'il y a des enfants qui savent très bien faire quelque chose, ou qui aiment bien faire quelque chose, et aimeraient l'apprendre à quelqu'un? Eugénie est venue me voir ce matin déjà pour quelque chose. Alors je te donne la parole.
Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui voudraient regarder le livre de la famille que mes parents m'ont?
Eugénie est une fille hyper introvertie, qui ne parle jamais. Donc vous voyez là, pour venir présenter, lancer son projet, on l'entend de façon...
Alors, on écoute Eugénie. Ceux qui n'ont pas appelé, ça veut dire qu'ils ne verront pas le livre, ou ils le verront tout à l'heure, ou c'est cet après-midi?
Ils le verront tout à l'heure, ou cet après-midi, ou deux jours.
Voilà. Elle vous appelle dès qu'elle a fini avec les deux. Les deux qui ont levé la main, c'est pour maintenant. D'accord? Donc vous viendrez vous inscrire au point lecture. D'accord? Tu te mettras à quel endroit? Je leur explique.
Peut-être qu'à moitié au coin.
D'accord. Très bien. Alors, Eugénie a son livre sur l'alphabet. Est-ce que quelqu'un aurait besoin de
dernière, il y a eu des enfants qui avaient besoin d'autres enfants pour une peinture. Il y a des enfants qui avaient besoin de quelqu'un pour jouer au jeu de la bataille. Est-ce que vous avez encore besoin d'un camarade pour faire quelque chose? Elle va vous présenter son projet. J'explique ce que c'est.
Très coupé, mais c'est le montage, hein, ça va pas aussi vite avec les enfants. Ce petit magazine, il est reparti, il est en vente, et c'est un petit magazine qui est entièrement fait par les enfants et les classes. Donc c'est, vous avez des histoires, des bricolages, des recettes de cuisine qui sont faites de façon coopérative aussi entre classes, puisque lorsqu'ils font une histoire, ils l'envoient à une autre classe pour correction, etc. Donc il y a tout plein de classes qui s'inscrivent à ce genre de projet. Donc on peut y participer en s'abonnant, et on peut aussi y participer en étant classe de relecture, ou classe d'échange, etc., ou proposer soi-même ses fiches. Et il existe un peu le même principe en cycle 2 et cycle 3 avec d'autres publications, les BTJ. Par rapport à ça, tout à l'heure, on parlait des billes, du matériel, et à un moment, retravaille sur le... Il y a eu un atelier, justement, elle avait besoin de billes, donc avec le petit groupe qui voulait faire cet atelier-là, on a mis en place une petite affiche pour les parents avec un atelier d'écriture, puisqu'il fallait demander aux parents les billes. Donc, après, autant que possible dans ce genre de projet, j'essaye, moi, tout quand il y a une corde, de sauter dessus pour après en l'utiliser, plutôt que faire une lettre pour les parents sur un truc bidon ou un exercice tiré d'un manuel de lecture quelconque, la vie de la classe, elle nous propose plein de situations où on a à faire tout ce qu'il y a dans les manuels de lecture, je pense en élémentaire, où vous avez, quand vous travaillez sur des textes, bon, je me rappelle les premières fois où j'avais des CE2, je travaillais la lettre, je travaillais à partir du manuel, quoi. J'avais des lettres mais qui fictives, hein. Alors que là on travaille vraiment sur nos lettres, sur des choses pour de vrai, quoi.
Ceux qui ne sont pas, sachant que ça, d'autres enfants pourront le faire après, hein, vous pourrez le reproposer, et ça sera au point peinture. À la bataille?
Oui.
D'accord. Alors tu peux y aller et t'inscrire avec Gloria.
Longtemps du tutorat, mais je me suis rendu compte que c'était souvent toujours les mêmes enfants qui en profitaient, en l'occurrence celui qui était tuteur. Et à travers ce marché au savoir, j'ai essayé de faire en sorte d'élargir la possibilité d'être tuteur à tous les enfants.
Tu leur dis ce qu'ils doivent dessiner.
Parce que je me suis rendu compte à quel point finalement se mettre en position d'avoir à apprendre quelque chose aux autres, où enfin on est responsabilisé, il pouvait être aussi un moment porteur de savoir, porteur en tout cas d'une dynamique qui faisait avancer.
Le petit garçon avec qui j'étais, là, vous voyez, par rapport à la machine à laver, c'est un enfant en grande, grande difficulté, mais qui avait voulu absolument, à un moment, être tuteur. Et ceux qui ont déjà fait du tutorat, vous savez à quel point, moi, généralement, on est toujours les mêmes en tant que tuteur, et c'est toujours les... Et c'est passionnant à nouveau quand on change, vous parlez toujours de changer les regards, de changer les façons de voir. Quand à un moment donné, les enfants, je vais me faire trucider par mes collègues, mais je vais donner une anecdote que certains ont déjà entendue, de la petite Cécile qui dessinait les bonhommes, elle faisait un gros rond et puis deux petites pattes en grande section. Donc elle avait limite un handicap, etc. Et elle voulait absolument, en marché au savoir, présenter, apprendre aux autres à dessiner un bonhomme. Donc je ne lui ai jamais laissé, j'avais peur qu'elle se fasse moquer par les autres, etc. Parce qu'on ne dessine pas un bonhomme avec... C'est un rond penché, deux traits sur le côté. Donc à chaque fois, elle était toujours un peu frustrée, embêtée, et puis moi tout autant. Et un jour, la maîtresse de cette petite fille était malade, la maîtresse de son petit frère, et son petit frère est venu à la classe. Et je l'ai entendu un moment, au travail individualisé, elle dit « Viens, viens, on va faire le marche aux connaissances. » Puis je l'ai laissé faire, et je reviens 5 minutes après. Et pour la première fois, tous les jours, cette petite fille, je lui apprenais à faire le bonhomme, justement, pour qu'elle l'apprenne après aux autres, qu'elle le montre. Mais à chaque fois, ce qui revenait, c'était toujours ce bonhomme, ce mi-tétard, le truc, qui n'avait pas de forme, etc. Et j'arrivais pas, je me battais à le faire pour... Et impossible à chaque fois. Et là, elle invite donc son petit frère. 5 minutes après, je reviens. Et pour la première fois, je ne l'avais jamais vu, un rond pour la tête, le ventre, les deux bras, et le tout était droit dans le cadre de ce marché aux connaissances. Elle a bien voulu faire ce bonhomme pour la première fois. À mon avis, c'était plus, moi, je l'analyse comme ça, c'est que je la stressais tellement avec ma pression, etc., qu'elle restait dans son bonhomme, dans son truc infantile, et elle me faisait un bonhomme de la situation dans laquelle je la mettais. Et à un moment donné, elle s'est mise elle-même dans une position un peu plus valorisante, et elle s'est dessinée dans une position un peu plus valorisante, avec un bonhomme en entier. Vous voyez ? Donc je trouve que cette image-là, désolé pour mes collègues, je me rabâche à chaque fois le même exemple, mais je le trouve très révélateur de ce que ça peut être quand on inverse un petit peu les choses, donc on ne met pas forcément toujours les choses dans le sens commun de ce qu'on fait un petit peu d'habitude, qu'on change un petit peu les regards.
J comme M comme Marvel, comme marionnette. Et quand je regarde, elle est différente. Regarde.
Au savoir en maternelle, il faut les envisager sur deux plans, vraiment sur un premier plan qui est l'échange de savoir à proprement dit, mais aussi sur le plan d'une dynamique, une volonté de faire avec les autres, de coopérer. Et j'ai envie de dire, dans un premier temps, ou en tout cas dans mes premiers pas de marché au savoir avec les enfants, je pense que ce qui a encouragé, c'est peut-être davantage avant le vraiment l'échange de contenu, c'est déjà d'encourager au maximum cette dynamique. Les accompagner dans la naissance de leur projet, mais il y a aussi accompagner les enfants dans leur travail.
Au moment où c'était comme ça avec un peu de peinture, ils les ont pris la fourchette, ils ont pris différents.
Aussi important d'être assez disponible finalement pour aider les enfants à verbaliser, aider les enfants à mettre peut-être en relation ce qu'ils ont fait, soit avec le travail là d'un artiste, mais ça peut être aussi avec le travail d'un camarade, ça peut être aussi leur apporter tel ou tel matériel.
Alexandre, finis ton dessin tranquillement. Alexandre, finis, mais voilà, et toi tu me racontes, vas-y. Voilà.
Du rangement
horizontal. Vertical. Ah oui, pas ça. Tu n'as pas choisi la même feuille. Dans quel sens tu veux les mettre ? On va commencer par Thomas, qui a une petite histoire à nous raconter.
On t'écoute.
par rapport à ta question, les mises en commun, c'est on présente et systématiquement les autres renvoient, conseillent et toujours dans la bienveillance et que les choses ne sont pas terminées. Vous voyez, c'est pas jamais mon histoire, elle est terminée. C'est toujours, on est dans la construite pas perpétuelle non plus parce qu'à un moment on va le publier, ça sera terminé. Mais là, la petite fille Anaëlle est en train de présenter à Thomas, je lui donne des conseils. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, ils vont même en reparler à la récréation après, on va parler.
D'autres personnages avec un poisson.
Moi, j'ai
une bonne
idée, peut-être un requin.
Un requin, mais ce qu'elle vient de dire, ça fait penser à un requin aussi. On lève la main. Les enfants qui ont fait la construction, est-ce qu'il y en a un qui voudrait venir nous présenter ce que vous avez fait, ce que vous avez fait, à quoi ça sert? Tu viens, Gauthier? Pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire, Gauthier?
La propagande.
Ça veut dire qu'il faut des copains nous aident.
Il faut que les copains nous aident. Et là, vous êtes bien aidés. D'accord.
Céline, en cycle 3, comment ça se passe?
Ça y est. Il y a autant de bruit qu'on entend. Je pense que c'est quelque chose que vous avez tous entendu. Moi, là, on connaît bien ce documentaire, mais à chaque fois, c'est quelque chose qui peut faire bizarre. C'est qu'une classe qu'on est souvent, elle est un peu bruyante. Je suis intolérant au bruit. Il faut avoir des espaces de. Parallèle, vous envoyez des groupes qui font le plus de bruit pour travailler, pour être un petit peu tranquille. D'ailleurs, c'est même d'une manière générale assez respectable d'avoir des espaces autres que la classe, surtout pour les grands, parce que ici c'est peut-être plus compliqué. Où vous allez envoyer des groupes d'enfants travailler, vous allez leur faire confiance, vous respectez les règles en dehors de votre présence. C'est aussi un apprentissage à part entière. Du coup, je ne sais plus, moi, il y a tellement de choses sur lesquelles j'aurais pu dire. Si, par rapport à Salima, je ne sais pas si tu as une réponse à ta question sur l'aspect politique du TI. Est-ce que tu penses, à travers ce qui a été dit, que tu as une réponse ou pas?
Un petit peu, mais en fait, moi, en discutant avec mon collègue hier, elle me dit, ah ouais, mais prenez, ça va pas être possible, parce que c'est difficile de gérer, il faut attendre des occasions pour travailler sur quelque chose. Voilà. Du coup, partant de ça, forcément, c'est ingérable, quoi. Pour un CM2, par exemple, il y a... mais on dit, bah, attendez, quand est-ce que je vais... Et c'est vrai que quand on a discuté comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit ça. Et en même temps, j'ai des collègues qui venaient dans ma classe et en voyant les élèves comme ça travailler tout seuls, aller chercher, s'aider entre eux parce qu'ils sont pas de 4, etc. Et il y a des gens qui me disaient, ah mais tu fais du traîner. Non, je ne crois pas que je suis...
J'ai mis du temps à réfléchir, à pouvoir essayer de t'apporter une réponse. Je pense que dans le TI, il y a les deux moments. Il y a tout ce qui tourne autour du plan de travail. Et là, ça n'est pas quelque chose, à mon avis, à part dans son
travail individualisé.
Bravo, c'est ensemble. quelle belle chorale.
Dans le TI, à part l'autonomie et tout ce qu'il y a autour de l'autonomie, c'est pas là que la dimension politique va prendre son effet. Si, à travers le plan de travail. Dans un plan de travail, l'enseignant pose son exigence et à l'intérieur de cette exigence, l'enfant va faire ce qu'il veut au moment où, enfin, va faire ce qu'il est exigé au moment où il le souhaite, au moment où il est prêt à le faire. Je pense que dans le TI, on peut aussi proposer une idée à donner une piste de ça, d'autres choses à faire. Moi, j'aime bien appeler ça les projets. Des projets d'apprentissage. Les enfants se fixent un objectif. Ils disent, moi, j'ai envie de préparer un sketch. Je veux présenter un sketch aux copains. Donc, voilà, je vais établir des objectifs. Les enfants viennent me voir.
et on remplit une fiche de projet. Il n'y a rien marqué dessus là. J'ai oublié d'en amener des remplis. Mais une fois qu'on a décidé ensemble comment on allait la remplir, la feuille est pleine. On décide de la date du début du projet, la date de présentation, donc on a un ultimatum. Après, en fonction des disponibilités, s'il y a des enfants du groupe qui sont absents, s'il y a des jours qui sautent, enfin, pour plein de raisons, on peut éventuellement décaler la date de présentation, mais il y a quand même une date butoir, ce qui implique une organisation. Ils doivent donner un intitulé à leur projet, donc être capables de synthétiser ce qu'ils ont envie de faire, et de définir ensemble les enfants en groupe avec moi, qu'ils vont apprendre grâce à ce projet. Donc, ils s'engagent dans un projet d'apprentissage à proprement parler. Là, on est dans la métacognition, etc. Et puis, ils vont décider de l'organisation du travail. Il va falloir qu'ils s'arrangent tout seuls. Moi, je m'en mêle le moins possible pour se répartir les tâches, pour être capable de faire en sorte de présenter leur travail au moment où ils vont décider de le présenter. Ils ont maximum, en général, un mois pour le faire, sachant qu'on a du TI tous les jours. Et qu'il n'y a pas ça à faire. Ils vont devoir apprendre à se mettre d'accord. Et ça, c'est toujours ce qui est le plus difficile, surtout chez les grands, même quand c'est un groupe de copains. Et c'est là qu'est la dimension politique, à mon avis, qui va prendre tout son sens. Parce qu'apprendre à se fixer des objectifs, à trouver les moyens d'y arriver, et éventuellement apporter des modifications au projet pour arriver à son objectif, c'est là qu'on rentre vraiment dans quelque chose de social, et surtout quand il faut faire avec les autres. Pour moi, c'était ça la réponse à...
Par contre, il y a le cas que nous, on instaure, le BO, et il y a une place pour leur projet à eux, dans lequel ils vont aussi apprendre des choses qui vont finalement...
Exactement. Mais qui rajoutent des compétences qui sont plus dans une dimension politique, d'autonomie, de gestion, de projet d'apprentissage. Projet d'apprentissage, vraiment. Et tous les enfants ne sont pas capables de se dire « je veux faire ça avec telle personne, en tant de temps et de telle manière ». Et c'est extrêmement difficile. Et ils apprennent, parce que je les aide aussi, bien sûr. Et quand, en cours de parcours, de temps en temps, on voit que, parce qu'ils font des bilans quotidiens de leur TI, en cours de route, s'ils se rendent compte qu'il y a un problème, ils vont pouvoir demander à la classe, lors de moments de présentation, dire bah voilà, nous, pour faire notre projet, par exemple, un sketch, si ça marche bien, ça, c'est des présentations théâtrales, etc., ils apprécient beaucoup, mais il y a tout un tas de règles derrière à respecter. Par exemple, pour notre histoire, on a l'impression que c'est un peu trop court, on ne sait pas trop quoi rajouter. Eh bien, ils présentent à la classe, et puis les camarades vont dire ah, vous pouvez rajouter ci, vous pouvez rajouter ça, et puis ça relance la dynamique.
Et le projet des élèves doit se faire en fait en parallèle.
Mmh. C'est-à-dire que leur projet va être utile pour travailler des compétences des BO. Par exemple, à travers l'écriture d'un sketch, ils vont devoir apprendre à écrire des dialogues, à maîtriser les temps, les questions, les phrases affirmatives, les différents types de phrases, par exemple. Il va falloir qu'ils soient capables, parce que mon exigence à moi, c'est que tout ce qui est présenté à l'oral doit aussi avoir une phrase écrite. Doivent être capables d'écrire leur sketch, doivent apprendre par cœur leur présentation, leur texte, donc c'est aussi dire un texte à haute voix de manière expressive. Ils vont pouvoir travailler en art plastique parce qu'il va falloir qu'ils préparent un décor, qu'ils amènent du matériel, etc. Donc ils vont pouvoir fabriquer aussi pendant le temps. Et ça englobe, c'est vraiment un projet pluridisciplinaire. Et pour les enfants, c'est quelque chose de complètement naturel parce que ça part de leur envie. Et là, les enfants sont vraiment acteurs de leur apprentissage. Ils ne sont pas plus qu'acteurs, ils sont auteurs. Pendant les programmes de 2002, on avait ce grand mot, là, l'enfant au centre des apprentissages, acteur des apprentissages. La pédagogie Freinet a cette ambition de transformer l'enfant comme auteur de ses apprentissages. Et on le voit bien aussi dans le marché aux connaissances que Médic vient de montrer. Les enfants demandent des choses, proposent des choses, et là, ils sont vraiment à l'origine de l'apprentissage. À nous, c'est notre boulot à nous, de faire le lien avec ce qu'ils doivent apprendre. Éventuellement, pousser la chose un peu plus loin, pour rentrer dans, pour faire une coïncidence avec des programmes. Parfois, on est complètement hors programme. Et les enfants, ils vont travailler sur des choses qui sont beaucoup plus difficiles que ce qui est demandé. Par exemple, là, il y a cette semaine, dans les recherches mathématiques, puisque je travaille autour des créations mathématiques, je pense qu'on aura temps d'en parler, il y avait une recherche avec, il fallait calculer la surface d'un anneau
et la comparer avec la surface du cercle qui est à l'intérieur de cet anneau, et savoir quelle était la plus grande surface. C'est complètement en dehors du programme. Il y a un enfant sur les 18 CM2 de ma classe qui s'y est inscrit. Il a essayé de trouver, je lui dis, écoute, tu essaies de trouver des stratégies à toi pour essayer de comprendre comment tu pourrais faire. Et puis, si tu le souhaites, après, je t'apprendrai la méthode scientifique, mathématique pour calculer la surface d'un cercle. Eh bien, il a trouvé. Il a trouvé des astuces pour savoir comment faire précisément, comment calculer, en traçant un carré à l'intérieur du cercle, en traçant des triangles rectangles, parce que tout ça, on sait calculer l'air. Il a fait ça en je ne sais combien d'étapes, mais il a réussi. Et à la fin, je lui ai apporté, parce qu'il me l'a demandé, les formules mathématiques avec pi, etc., que je lui ai rapidement expliqué. Et puis, en nous voyant faire ça, il y a d'autres enfants qui, au départ, n'étaient pas du tout intéressés par cette recherche, qui, en voyant que quand même, on se creusait un peu la tête, qu'on cherchait et tout, ils ont, en gravitant autour de nous, ils se sont intéressés. Et on a fini par être 5 à chercher et à trouver. Donc, voilà, il y a des fois,
les fichiers, les grammaires, les français, il faut qu'ils soient prêts.
Je propose que vous continuez tout à l'heure ensemble, parce qu'à mon avis, on va décrocher les préoccupations de tout le monde et il reste peu de temps. Il y avait Emmanuel qui levait la main. Par contre, tu restes et puis tu m'en peux discuter de façon vraiment plus approfondie. Et... parce que là, on est très pointu et je préférais que là, pour la matinée, on reste plus large. Ouais. Emmanuel. Ouais.
C'est vrai.
Ils choisissent vraiment des enfants qui avaient plus travaillé tout seul et qui ont le choix à ce moment-là d'être tranquille, ils ont tout à fait le droit d'être tout seul.
Ils doivent tous faire un peu.
Ça dépend, non, ils doivent faire un moment divers.
Oui, c'est pas très personnel.
Au niveau de l'aspect politique, on parlait de l'aspect politique qui rentre dans la vie de la classe. Et aussi de tout ce qui est pédo-institutionnel, et par exemple le conseil de classe, on est en plein dedans, et c'est complètement ça, je trouve, qui sacralise sous cette recherche et cette construction dans la classe, à savoir tout ce qui est ceinture de comportement, responsabilisation des enfants, et qui se clôt par ce conseil une fois par semaine, où là il y a un bilan, et c'est où, quand on arrive à un degré d'autonomie totale, logiquement l'enseignant elle est en retrait, et c'est les gamins qui font tout. Et ça, je trouve qu'au niveau politique, comme tu disais, comme tu demandais, comment intégrer une politique, il se fait aussi à travers ce genre de démarche. Le conseil de classe, moi, je trouve que c'est...
En premier lieu,
c'est vraiment ce qui est représentatif de ce conseil.
Oui, c'est-à-dire qu'on était plus dans le travail individualisé, la
société, oui,
c'est un autre moment.
Oui. Mais ça, c'est dans la vie de la classe, et ça intervient
tout le temps. L'élément principal...
Oui.
Pour
dire
quoi? Une journée type ensuite. C'est-à-dire qu'il y a autant de possibilités que d'un style différent. En général, en pédagogie freinant, on essaye toujours de laisser, moi dans ma classe, ils ont entre 1 heure et 1 heure et demie de travail individualisé par jour. Et le reste du temps est organisé autour des disciplines qu'on fait tout ensemble, où j'apporte des infos, où on fait des temps de recherche, etc. Histoire, sciences, géographie, français, maths, des temps collectifs, pareil. Quoi. En gros, c'est ça. Sport, anglais, musique, parce qu'on balaye quand même toutes les disciplines. Maintenant, il y a d'autres instituts freinés qui n'ont quasiment que du temps individuel. Travail individualisé, à l'intérieur duquel il y a des petits moments d'atelier. Moi, j'ai fait le choix de faire en grand groupe les notions qui sont à travailler, qui peuvent faire un individuel. Après, c'est des choix en personne.
Ouais, peut-être.
Journée type, en fait, on n'en a pas vraiment. Puis ça peut évoluer au cours de l'année. Moi, j'en suis à mon 3e emploi du temps que de l'année, donc ça évolue plus fort.
Quand on est dans le marché au savoir, connaissance, que certains proposent un projet, ou s'inscrivent proposent un projet et que d'autres s'inscrivent pour participer au projet, si certains ne proposent rien, ils ne s'inscrivent à rien. C'est un moment où ils sont tous sur un projet, une activité, certains ne se sont inscrits à rien. Là, ils font quoi?
Nathalie.
Ouais.
C'est rare.
C'est rare.
Enfin, je sais pas, mais...
Il y
a toujours quelque chose d'intéressant qui va leur plaire, voire c'est d'ailleurs trop sur un même atelier.
Parce que c'est vraiment un moment où ils sont tous
là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est un moment, j'en ai fait deux depuis le début de l'année, et c'est vrai qu'ils ont tous, à chaque fois, trouvé un intérêt sur ce qui a été proposé par les autres. parce qu'on passe aussi bien au dessin que faire un puzzle, que apprendre à faire à écrire un mot. Donc y a, c'est assez varié en fait au niveau des propositions pour que chacun puisse trouver un intérêt à y aller. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de blocage. Mais après, moi je force personne. Je veux dire, si vraiment il n'y a personne, quelqu'un qui ne veut pas s'inscrire, bah, il ira prendre son cahier de travail individuel ou il ira faire quelque chose sur son plan de travail à ce moment-là. Et voilà. Ça reste libre quand même.
Petit bémol par rapport à un mot que j'ai entendu, c'est parler de l'extrême. Au bout, il faut obtenir l'autonomie totale des enfants, je ne sais pas quoi. Nous, on n'est absolument pas autonome de toute façon. Après, il faut bien définir ce que c'est que l'autonomie. L'autonomie, ça ne veut pas dire être indépendant des autres. L'autonomie, on a toujours besoin des autres. Et moi, ce que je crée, ce n'est pas des enfants qui sont autonomes et qui peuvent faire leur petite vie tout seuls. Bien au contraire. C'est d'apprendre à pas forcément être que dépendant, mais savoir utiliser les ressources de la classe, le maître, les autres enfants, etc. C'est quelque chose qui vit. Et puis, il n'y a pas de... Il ne faut absolument pas y voir quelque chose d'ultime et d'un truc vers lequel on va. C'est, j'ai envie de dire, ce qui est le plus intéressant dans ce genre de pratique, c'est un cheminement. C'est votre, le fait que vous soyez en mouvement à un moment donné qui est bien plus intéressant. Je taquinais toujours Céline qui disait, moi je suis à 80% de pédagogie freinée ou de machin. Pour moi, ça ne se calcule pas en termes de pourcentage de ma classe. De, je suis à 60%, à 20%, à 10%. C'est je suis en cheminement ou je ne le suis pas. Voilà, c'est après dès lors qu'on est en cheminement, bah c'est tout. Moi, quelqu'un qui est en cheminement comme Lison et quelqu'un qui est en cheminement comme notre collègue qui nous a quittés, je veux dire, Lison est peut-être plus dynamique qu'un collègue qui est en fin de carrière, qui certes il a peut-être atteint le point ultime, je sais trop quoi, mais c'est peut-être plus intéressant d'être dans la classe avec Lison parce qu'il y a une dynamique, il y a quelque chose qui est bien plus frais, il y a une fraîcheur, il y a des questions qui se posent, il y a quelque chose de voilà. Donc il n'y a pas de niveau. Hein.
Puis par Freinet, une chose auquel je peux ajouter quand même quelque chose, c'est Freinet lui-même disait il n'y a pas de pédagogie Freinet, ça n'existe pas, ça l'énervait beaucoup. Parce que cette pédagogie Freinet, elle vient des rencontres de milliers d'adhérents. Il a simplement été un peu charismatique à un moment donné, il a cristallisé un petit peu toutes ces rencontres de personnes, mais il disait d'ailleurs, dans les congrès dans lesquels il était encore vivant, il a participé, il disait, mais moi vous savez, je n'utilise pas tous les outils Freinet. Quand j'étais instituteur, je n'utilisais pas tous les outils Freinet. Il y a les jeunes qui trouvent de nouvelles voies, alors eux, ils m'apprennent des tas de choses. Donc vous voyez, on ne peut pas dire... c'est tout l'inverse d'un dogme, Freinet. Sinon, on rentre vraiment dans la trahison quand on veut dire « je fais 100% Freinet ». C'est très suspect. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là-dessus, il faut se calmer. Je pense qu'effectivement, c'est le cheminement et la qualité du cheminement qui est important. Et la philosophie, car c'en est une, c'est plutôt une philosophie. Ce n'est pas une religion, c'est une philosophie de la vie. Et ça va même au-delà du politique serré. Tu vois, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Je voudrais revenir au projet de l'enfant. Donc, ils veulent faire un sketch. Donc, ils vont, on va voir ensemble avec l'enseignant les différents apprentissages fondamentaux, entre guillemets, qui doivent être mis en place. Comment est-ce que comment l'enfant va avoir accès à cet apprentissage-là après, une fois qu'on a posé les choses, on a dit bah, pour faire votre sketch, il va falloir que vous voyez les phrases de Clément, si vous voulez les déclarer, cela. Comment c'est mis en place concrètement après?
Alors, soit c'est des notions qu'on a déjà vues, qu'ils connaissent déjà parce que ça a déjà été abordé, et si c'est nouveau, bien, je vais leur proposer un moment où on va dire bah, et si vous avez besoin de ça, et bien on va se donner rendez-vous tel jour pour que je vous donne juste à vous qui en avez besoin maintenant de ces informations-là. Parce que le TI, c'est aussi un moment où l'enseignant il est libre de ses mouvements, il peut faire ce qu'il a envie, on est autonome. Mais si on est autonome à ce moment-là, il y a des moments où je ne m'occupe absolument pas des enfants quand ils sont en TI, parce que j'ai un truc à préparer pour la séance de maths qui suit, il faut que je fasse sur mon tableau, sur mes feuilles, machin. J'ai pas eu le temps de le faire avant, j'ai mal préparé ma classe, j'ai mal géré mon temps. Et ben voilà, ben je le fais pendant le TI, c'est aussi mon TI.
C'est pas la réponse immédiate, c'est-à-dire qu'on va différer, on va dire. On prend rendez-vous, on se dit, bah, voilà. Tiens, on se donne vendredi, on se voit à telle heure, et on discute de ça, et toi, du coup, tu as préparé
Non, par contre, je vais utiliser ce groupe d'enfants qui a déjà vu une notion qu'on veut signer pour introduire cette notion auprès des autres. Je vais leur demander si eux, ils veulent faire l'instrument à ma place. Et ils vont se sentir valorisés. Et du coup, même les enfants qui, en général, ont des difficultés, qui connaissent quelque chose que les autres ignorent,
ils se sentent super grands et en général, ils acceptent volontiers
de. Et du coup, après, ça peut, les exercices peuvent devenir ateliers obligatoires parce que les.
Après, ça dépend du point de vue de la place.
C'est ça qui est génial.
Oui.
Et est-ce que Christelle, en deux mots, on se cache tout à l'heure, il va m'oublier comme ça. Est-ce que tu peux rapidement rapidement parler de ton projet d'écriture avec les scènes du moins
Il est très court en fait.
J'introduis la chose. Après, on en a rigolé. Moi, je ne vois pas de différence, moi, qu'on parle de maternelle ou de cycle 3, où généralement ça relève, et voire même les emplois du temps relèvent généralement d'une même logique. Alors certes, je suis en maternelle, donc j'argumente plus sur la maternelle, mais à nouveau, la logique, nous on s'est des fois posé la question, est-ce que dans nos réunions, il faut se découper en cycle 2, en cycle 3, en cycle 1 ? Je veux dire, les questions, la logique et le travail, c'est relativement le même. Donc à nouveau, certes, c'est éloigné entre des petites sections et puis des CM2, mais ça n'empêche que les réflexions, la logique, la dynamique restent globalement la même. Et ce que vous avez vu dans le film, à nouveau en tout cas pour démarrer avec des cycles 3, il y a des choses ou un fonctionnement. Et je pense, et j'ai fait un peu les deux, le cycle 2 et le cycle 3 a grandement à s'intéresser un peu à ce qui se passe en maternelle. Non pas que je veux l'idéaliser ou quoi que ce soit, mais le fonctionnement, l'organisation, les ateliers, l'organisation géographique, je veux dire, les collègues de cycle 3 gagneraient des fois à refaire peut-être un stage, un mini-stage, à retourner un petit peu en maternelle des fois, pour y voir qu'en maternelle, on ne fait pas que changer les couches, comme disait notre ancien ministre. En tout cas, il y a un cadre et des choses qui sont intéressantes. Et je pense que toute réflexion dépasse le cycle. Et donc son projet, il est intéressant dans ce sens-là, où c'est un projet justement qui relie la maternelle à du cycle 3.
Enfin, c'est surtout le tien, hein, parce qu'en fait, un mercredi, Eddy nous a parlé du projet de l'orientation CM2.
Que j'avais avec Chantal qui est là, comme ça on va redonner
si
César, qui appartient à César.
Et donc en fait, les CM2 viennent en grande section écrire les histoires que racontent, que inventent. Et cette idée, c'est vite. Et donc, j'en ai simplement parlé à l'école élémentaire en face de mon école en me disant peut-être que ça intéresserait. Et en effet, j'étais très surprise, ça a intéressé donc, une prof de CM2. Donc là, pour l'instant, j'ai juste amené le projet, on en a parlé un tout petit peu. Cette année, peut-être que ça ne se fera pas, mais en tout cas, je sais que ça intéresse ma collègue de CM2. Donc voilà, juste pour dire qu'on peut aussi, faut pas aller trop vite en fait. Il faut aussi se poser, réfléchir comment on le fait. Ça a été fait de cette façon quelque part. Ben oui, ça s'est fait comme ça, mais est-ce qu'on peut réfléchir à comment on peut le faire ensemble? Parce que c'est pas les mêmes personnalités, c'est pas les mêmes enfants, c'est pas les mêmes vies. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça intéresse. Alors que c'était vraiment, j'y croyais pas vraiment, mais. Ça intéresse, c'est d'y aller doucement et de créer cette expérience ensemble, en fait, avec nos collègues. Voilà. J'en suis que là, ça a intéressé. Et peut-être qu'on mettra en place l'année prochaine.
J'en ai déjà là.
Et je vais l'embêter parce que maintenant qu'elle est lancée, c'est comme les moteurs diesel, ça va s'arrêter après. Par rapport à ce qu'elle vient de dire et ce qu'on avait fait avec Chantal, il y a la synthèse là, de en quoi c'est intéressant pour les plus jeunes. Et ça peut être CP et cycle 3 d'ailleurs, hein. Ça peut être étendu à moyen, toutes les possibilités sont bonnes. En quoi c'est intéressant pour les enfants de maternelle? En quoi c'est intéressant pour les cycles 3? En quoi c'est intéressant pour le maître aussi et la dynamique plus générale? Et il y a la procédure, si on veut le faire pour des raconter une histoire, légender des photos, des choses comme ça avec des petites photos, on va le faire circuler le document. On ne va pas le reprendre en détail, sachant que vous avez les objectifs et la démarche qui est sur le document qu'on va vous faire tourner. D'accord? Et on va terminer et conclure la matinée par... elle va le lancer, puis on va un petit peu en parler et recadrer aussi par rapport à ça. Je peux me donner le temps. La légende cycle 3 vont encore railler. Mais là, ce n'est pas de ma faute. Hein. L'OCCE a fait un document que je trouve excellent sur le conseil, mais il a appelé le conseil d'enfants à l'école maternelle. Donc les gens J'ai essayé de gommer maternelle parce que, mais sincèrement, ce crémi-là, vous le faites en cycle 3. Moi, quand j'avais mes cycles 3, c'est ce que je faisais. Je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé en maternelle. C'est-à-dire, le cadrage qui est là, il est valable pour des, à la rigueur même, c'est même un cadrage qui est plus intéressant pour des cycles 2 et des cycles 3, je trouve. En maternelle, on l'adapte et on est bien moins ambitieux que ce qu'il y a là. D'accord ? Donc, je m'excuse encore auprès des collègues de cycle 3, des cycles 2 qui vont se sentir blessés parce qu'il y a marqué maternelle. Mais ça s'adresse vraiment à... Ne snobez pas parce qu'il y a marqué maternelle. Et derrière, vous avez un cadrage par rapport au conseil et un cadrage par rapport au quoi neuf. Là, elle va vous parler de son expérience du conseil, hein, parce que je pense que plutôt qu'on vous fasse le cadrage, je préférerais qu'elle vous fasse, qu'elle vous présente son expérience. Les cadrages, vous l'avez ici en synthèse. Donc ça, plutôt que je pourrais vous présenter certains plus vivants, mais je préfère que ça soit ce matin, vous êtes venu aussi pour avoir du concret, des gens, etc. Donc, vous aurez des pistes vraiment concrètes sur le conseil, comment on le place, quelles règles, tous les combien, et sur ce document-là, et sur le document de l'OCC. D'accord ? Sachant à nouveau que ceux que ça intéresse, plus tard, si vous revenez à nos réunions, etc., on a de la documentation, on a des petits livres spéciaux sur le conseil, on a des vidéos, on a énormément un stock de plein de vidéos aussi. Vous pouvez venir aussi à nos réunions, pas forcément pour y assister, mais regarder les réunions si vous souhaitez, etc. Voilà, hein, donc la documentation, on en a et c'est à prolonger. Donc ça, je le fais circuler. Donc il y a ça, recto verso sur le conseil, et ça sur le projet un peu que je vous ai présenté. Et c'est super qu'elle l'ait dit. Il faut se donner le temps. Et avec les collègues, c'est très dur. Moi, j'ai remarqué, alors c'est dommage que Chantal soit là parce qu'elle va avoir ma stratégie, mais mieux vaut se laisser le temps et que l'année prochaine, la collègue, elle vienne le voir. Tu sais, Christelle, j'ai une super idée. Si mes CM2, ils venaient faire des choses d'écriture, quand c'est vos collègues qui viennent vous voir et qui sont réappropriés un petit peu l'idée, les petites graines que vous avez mises, ben, ils sont 10 fois plus partants que quand vous voulez leur imposer l'année même où ils n'ont pas de repères, etc.
Il ne faut pas donner trop de temps non plus, je pense. C'est à doser.
Voilà, sans qu'il y ait du vécu derrière.
Sinon, ça parle pas.
Après, ce genre d'outil peut aider. Parce que souvent, Chantal, en tout cas, ce qu'elle avait voulu voir au début, c'était des vidéos, d'avoir un peu un cadrage. Et je pense d'avoir ça peut-être au début, ça nous aurait aidé à bosser ensemble. Parce qu'on n'a pas l'habitude aussi, les collègues de maternelle et les collègues de cycle 3. Là, cette année, ça va aller plus vite avec un document de cadrage où on sait un petit peu où on va. Mais comme elle disait, c'est un projet d'une école. Après, voilà. Je fais circuler. Ça d'un côté, et puis le conseil de l'autre. Et on écoute Christelle pour un témoignage vivant. TTPE2, il y a combien de temps ? Donc, elle va nous faire un rapide historique de comment elle a mis en place le conseil dans sa classe, sachant que ça fait 3 ans qu'elle est sortie de l'UFM.
En fait, de mon expérience traînée, je suis partie directement en mettant en place le plan de travail. Je suis radicalement plantée. Parce qu'en fait, il n'y avait pas. J'avais pas mis en place cette philosophie dans la classe. Et je suis allée sur. Donc, j'ai vite compris qu'en fait, pour mettre en place des TI, le travail individualisé ou les projets, il fallait passer par le conseil. Oui. Là, on règle le fonctionnement de la classe, on parle des projets de chacun. Donc, au départ, j'ai lancé le conseil, comme ça, on est toujours sur un cahier. Il n'y avait pas de trace, je n'arrivais pas du tout à sortir de ce que les enfants disaient, des ateliers, créer des ateliers ou de lancer les projets. J'ai demandé à un collègue de venir. De venir voir comment je faisais le conseil aussi, et elle m'a aidé aussi à mettre en place un support. Donc, et en allant voir d'autres classes aussi, j'ai vu des supports et c'était que je me suis appropriée tout ça. Et maintenant, j'ai réussi à faire ce support. Donc, on marque la date, on s'inscrit. Donc, en fait, du coup, c'est un peu plus cadré, c'est pas je dis ça. Maintenant, c'est 2 personnes qui s'inscrivent pour dire je ne suis pas d'accord sur quelque chose, je voudrais que ça change. 2 autres personnes dire je suis contente, et j'aimerais que ça continue ou j'aimerais que ça se transforme comme ça. Et après, 2 personnes qui s'inscrivent pour des idées d'ateliers ou de projets pour la classe. Ouais. Donc voilà. Donc, et maintenant, j'arrive à. Cette année, j'arrive en fait à retirer les propositions
des élèves à en faire une liste de projets, parce qu'on ne peut pas tout faire aussi. C'était aussi ma problématique, c'était les enfants avaient beaucoup de projets et je ne savais pas quoi en faire. Fallait que je construise aussi cet atelier ou ce projet, donc j'étais un peu perdue en fait au début. Et là donc on arrive à dire bah ça on le fera un peu plus tard, ben, ça on le fera la prochaine période. Donc on arrive à s'organiser avec la classe sur toutes les propositions qui sont. Ouais. Donc voilà, j'en suis là. Mais il y a aussi le point de neuf qui amène aussi des projets. De quoi de neuf que j'ai mis en place aussi il y a 2 ans, où ça amène aussi des projets personnels, un peu plus personnels, ou des ateliers se mettent en place à partir d'un quoi de neuf, c'est-à-dire un enfant qui ramène un objet et ben, on se demande qu'est-ce qu'on peut en faire et du coup on crée aussi un atelier. Voilà, il y a un élève cette semaine qui a ramené des gormiti. Super. Donc les gormiti, en fait, on en a parlé et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et du coup, les enfants ont décidé de faire un théâtre, mettre en scène les gormiti. Donc du coup, là, il y a un groupe qui sont partis à construire un théâtre. Donc, ils se sont demandé quels matériaux, comment ils vont faire, et donc du coup je les aide à monter un petit théâtre et pour mettre en scène ces gormitis dans une histoire qu'ils vont écrire. Voilà.
Roselyne.
Je voulais juste poser une question par rapport aux autres partenaires, notamment aux parents. On a beaucoup parlé jusqu'à présent, je voulais savoir comment vous présentiez cela, votre projet aux parents, et comment vous arriviez à ce qu'ils adhèrent au projet, qu'ils y participent. Parce qu'eux aussi ont leur vision d'un enseignement qui est très traditionnel. Ils ont aussi tout ce qu'ils entendent autour d'eux avec leurs exemples de pédagogie frontale. Donc j'aimerais savoir comment vous arrivez à les faire adhérer au projet de votre classe.
Ben, en fait, j'ai juste une année où j'ai eu un problème pour le point neuf, pour ramener des objets dans la classe. En fait, les parents ne comprenaient pas et ils interdisaient leurs enfants de ramener des objets de la classe. Donc, du coup, une année, on s'est posé la question avec la classe, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les parents comprennent ce qu'on veut faire. Et du coup, on a fait comme une feuille de chou. J'arrive pas à mettre en place le journal, mais une feuille où on a expliqué du coup ce que c'était le point neuf et pourquoi on le faisait et comment on l'utilisait. Donc à partir de ce moment-là, là on a commencé à... Les enfants, ça a été plus facile pour amener les objets, mais j'ai jamais eu en fait de gros soucis sur l'adhésion des parents sur le système qui fait.
Je crois que les parents, ils ont deux choses principales en fait. Il faut que leur enfant soit bien à l'école et qu'il apprenne. C'est ça. Et pourquoi notre manière de faire serait plus insolite que la manière traditionnelle qui parfois suscite des phobies scolaires et où parfois les enfants en difficulté en particulier ne sont pas assez pris en compte. Je pense que une fois qu'on a expliqué aux parents notre démarche, nos objectifs, pourquoi on fait ces choses-là, de cette façon-là, et que tout est fait en transparence. Moi, j'invite les parents à venir voir ma classe, comment elle fonctionne, pendant qu'il y a les enfants à l'intérieur, quand ils peuvent, parce qu'ils ne peuvent pas toujours, mais il y a plein de parents qui sont déjà venus et qui disent, mais ils sont toujours tombés bavards de voir que les enfants savaient à quel moment ils avaient à faire quoi. Et que jamais je crie dans la classe, jamais. Jamais, jamais, il n'y a jamais de problème d'autorité. Parce que les enfants sont toujours en activité, ils savent quoi faire, quand faire. Et les parents, en voyant ça, ils sont rassurés. Je pense que c'est vrai que c'est une pédagogie qui peut faire peur à certains parents parce qu'ils vont dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va apprendre, est-ce qu'il va faire un programme, est-ce que pour l'année prochaine il va être prêt. Moi je suis en CM2, donc la sixième, c'est quand même une problématique bien présente. Et on explique aux parents que pour que les enfants réussissent la sixième, ben, la principale chose qu'ils doivent savoir faire, c'est être autonome. Et on fait ce qu'il faut pour qu'ils soient autonomes. Et qu'ils ne sont pas laissés comme ça à l'abandon. Et,
Moi, j'aime bien faire participer les parents à la vie de la classe. Et puis les marchés au savoir, on peut les faire avec les parents aussi. Mais après, voilà, s'il faut accepter ou pas, et d'avoir un regard dans la classe, etc., c'est pas toujours facile.
Donc on avance doucement. On a, si vous avancez trop vite, vous allez vous mettre en insécurité, insécuriser les parents et puis bah, du coup avoir des problèmes. On avance doucement, avec tact. Les réunions de début d'année pour compléter aussi sont importantes. Et bah, ça amène une transition à la conclusion que je voulais apporter par rapport à la matinée. Et insister peut-être sur un point et une des clés pour réussir, pas forcément rentrer en pédagogie freinée, ce n'est pas forcément l'intérêt de tout le monde et puis je le comprends. Par contre, fonctionner un peu trop autrement avec les enfants, faire en sorte que tous les enfants apprennent et qu'on sorte un petit peu des logiques d'échec dans lesquelles on est, une des clés, et qui répond grandement à la question que tu as posée, c'est les classes multi-âges. C'est-à-dire d'essayer, à un moment donné, de sortir de toujours cette classe. Je prends le CM2, je prends le CP, je prends la grande section. C'est quelque chose qui généralement fait très peur, le fait de quand on a dans une école qu'on arrive, il y a, je sais pas moi, la petite et grande section ensemble et la grande section, généralement les collègues préfèrent prendre la grande section. Moi, j'aurais pas dû le prendre encore en maternelle, je vais encore faire taper sur les doigts, mais peu importe le niveau, moi je peux vous assurer, les collègues qui ont ce genre de classe, certes le premier mois, les premiers temps, bah, il faut trouver son rythme et c'est pas toujours évident. Au moins à partir de maintenant, moi, je n'en vis absolument pas des collègues qui ont une classe à niveau simple. Hein. Moi, je me demande même comment ils font. C'est grâce au fait que j'ai justement une variété d'enfants avec des âges différents que se pose d'ailleurs l'histoire des groupes. Je suis obligé de faire des groupes parce que je ne peux pas faire travailler mes petits, mes grands, ou mes CE2 avec mes CM2 surtout, ou mes CP avec mes CE2, etc. Alors, c'est vrai que ça pose un peu problème pour les CP, CE2 par exemple, où c'est un cycle différent. Quand c'est le même cycle, a priori, les programmes sont relativement les mêmes et à vous d'adapter, etc. Alors sans, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème à le faire, mais voilà. Donc là, il y a une piste. Et par rapport aux parents, quand on a ce genre de classe, l'idéal même, mon idéal, je disais qu'il n'y avait pas d'idéal tout à l'heure, c'est quand on arrive aussi à garder les enfants plusieurs années. Et je vais citer un exemple d'une maman, moi, en réunion. J'avais des moyens et des grands. Donc en réunion début d'année, il y a des parents qui me disent « Ouais, votre fonctionnement, ça me plaît beaucoup, mais l'année prochaine, au CP, est-ce qu'il ne va pas être un peu déboussolé, l'enfant hein ?» Là, il fonctionne en autonomie, l'année prochaine, ça va être... Et puis, une autre maman qui répond bah, « Vous savez, moi, ça fait 2 ans que j'ai ma fille, alors je la vois, elle réfléchit, puis elle dit « Ah, mais est-ce que c'est à monsieur Drissi de changer ? Est-ce que ça ne serait pas aussi, peut-être, à la collègue de CP de peut-être prendre aussi certains de ses outils et de s'inspirer que le travail aille dans les deux sens ?» Vous voyez, parce qu'elle en a vu l'intérêt, et j'ai trouvé ça super, la maman finalement, oui, réponde et rassure une autre maman et rediscute finalement entre eux. Et qu'à nouveau, les clés, à nouveau, ben, c'est pas seulement les enfants, c'est pas seulement moi, les parents aussi, on leur donne un petit peu les clés de... C'est vrai que nous, on a un inspecteur qui nous a demandé, et j'ai trouvé son idée intéressante, de plutôt qu'attendre toujours les fins de période pour donner des bilans aux enfants, aux parents, avec le cahier du jour, on leur fait signer à la fin. Là, depuis janvier, du moins même décembre, je me suis fixé comme obligation à chaque début de période de leur donner un tableau avec tout ce que vont apprendre les enfants. Non plus à la fin, mais de leur donner au début. Et ça et un, de qu'est-ce qu'ils apprennent, et deux, comment ils vont le faire. Donc le plan de travail, le travail en autonomie, bah, c'est glisser dedans. Et je leur montre bah, que pour apprendre ça, ils ont ça, que pour ça, par contre, ça sera avec moi. Et ça rassure aussi. Voilà. Donc après, dès lors qu'on fait... Alors après, bien sûr que c'est jamais sans... Il y a un moment, il y aura des difficultés avec des collègues. Parce qu'il y a une telle image sur ce genre de choses, et puis ça remet en cause. Parce que ça bouge beaucoup. Et c'est ça que je voulais essayer de dire en conclusion, c'est le genre de choses qui ne laisse pas neutre. C'est pas que la pédagogie freinée en soi, ça soit si révolutionnaire, parce que ça ne l'est pas tant que ça, et finalement c'est assez naturel, j'ai envie de dire, finalement. C'est du bon sens, c'est naturel. Mais ça remet en cause tellement d'habitudes, voire j'ai envie de dire, de mauvaises habitudes, que ça dérange beaucoup et qu'on va tout mettre un peu sur le dos du pauvre Célestin. Mais finalement, c'est que du bon sens. Regardez vos notes, regardez tout ce qu'il y a là, regardez ce qu'on dit depuis ce matin. Est-ce qu'il y a des choses si révolutionnaires que ça? En gros, c'est un peu d'humanité, un peu de respect, d'écoute, de coopération, des valeurs qui sont importantes et pas si politique que ça. Hein. Quand je vous disais politiser, tout à l'heure, c'est pas politiser, c'est la société, tout du moins, c'est quelque chose qui correspond à la vie de la cité. Et regardez les penseurs grecs, moi, c'est ce qui était un peu de tout temps. Hein. Pour que la cité vit, c'est ces valeurs-là. Et nous, ce qu'on essaie, c'est de les faire vivre et de les promouvoir et de les débattre avec vous. Et je vous remercie donc, du coup, de. Parce que les échanges, à nouveau, pour nous, j'ai envie de dire, je vais être encore provocateur et je terminerai là-dessus, ceux qui ont été les plus formés ce matin, c'est nous, là. C'est ceux qui ont la parole, qui ont le pouvoir, c'est eux qui avancent. À nouveau, moi, vous m'avez fait beaucoup avancer en m'écoutant. Et je souhaiterais que, peut-être un moment, comme Christelle l'a fait, là, je l'embête de plus en plus, elle prend la parole, je peux vous assurer que ça lui fait faire des grands bons géants d'avoir un moment à présenter aux autres ce qu'on fait et d'échanger. Voilà. La parole, c'est vraiment un outil de pouvoir énorme. Et de le donner aux enfants un moment, faire en sorte qu'ils disent, tiens, je leur ai appris quelque chose, que ces enfants-là l'apprennent aux autres, elle donne du pouvoir. Hein. La parole, c'est un pouvoir énorme. Le pouvoir là que j'ai ce matin, il est énorme. J'essaie de le partager avec un cadre donné, etc. Mais il n'est pas. C'est ce qui me fait beaucoup avancer. Voilà. Alors, j'ai vos listes, vos adresses mail à toutes et à tous, puisque vous m'avez. Sauf ceux qui sont. Sauf les clandestins. Deux cas de figure. Par la suite, vous souhaiteriez continuer à être informés. Donc, a priori, je ne sais pas si j'enverrai encore d'autres synthèses. Là, on a donné déjà pas mal de choses, des références, etc. Ça ne sert à rien de vous inonder avec 3 tonnes de documents. Par contre, on peut continuer et je peux vous inscrire sur une liste de diffusion à laquelle vous recevrez pas 3 tonnes de documents, ni de pétitions ou de choses et d'autres, que par rapport à la vie du groupe où vous recevrez vraiment les prochains stages. On y fait, le contenu, éventuellement quand il y a des réflexions importantes, que vous les receviez. Donc les personnes qui n'étaient pas inscrites, ça serait bien que vous veniez marquer votre nom et surtout votre mail et mettez-le moi s'il vous plaît en majuscule, même si ça vous choque et ça soit en majuscule, parce que vous avez tous peur que quand on est en majuscule ça marche pas, mais ça marche très bien. Parce que si vous le mettez en minuscule, les lettres des fois on n'arrive pas à les lire et puis il suffit d'une petite faute pour que vous receviez rien. Si vous le mettez en majuscule, généralement les lettres elles sont mieux écrites en majuscule. Donc, bref, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail à la suite et inversement, ceux qui ne veulent pas, ne veulent plus rien recevoir des envois par la suite, soit
vous êtes dégoûté par votre
vous mettez non ou soit vous me renvoyez un mail à gpm@sicem en disant je ne souhaite plus recevoir et si on vous envoie plus rien, c'est pas, sachant que c'est pas 3000 mails hein, c'est à chaque stage vous envoyez ce qu'on va en gros le planning de le contenu de nos stages. Voilà. Je n'ai pas parlé du tout d'adhésion au groupe ou quoi que ce soit. À nouveau, je répète, ce n'était pas l'objet de ce matin. Et je ne souhaite pas qu'on en parle non plus ce matin. Ceux qui sont intéressés par continuer l'aventure avec nous, nos classes sont ouvertes. Par autorisation avec vos inspecteurs, si vous voulez venir nous visiter, c'est faisable. De plus en plus, parce que vous savez pourquoi les Iliens, ça devient une espèce en voie de disparition. Donc ça devient de plus en plus difficile. Il y a les stages, les réunions, voilà. Et dernière petite parenthèse, ceux qui sont sensibles à la cause des RAZ, petite parenthèse qui n'a rien à voir, Roselyne, parce que les RAZ, on ne va pas en débattre longtemps, ceux qui veulent en discuter, Roselyne, si tu peux te lever pour qu'ils te voient, auraient éventuellement à une pétition ou peuvent venir débattre, enfin pas débattre, mais en tout cas discuter, si vous vous sentez proche de cette cause et que vous avez envie de l'encourager, signer la pétition, vous pouvez la voir. Dans 5 minutes. Voilà. Je pense que c'est pas négligeable et assez important. Voilà, que dire. Donc les documents, vous les gardez, vous les diffusez auprès de vos collègues, il n'y a aucun problème, bien au contraire. Et sur chaque document, en tout cas sur le document en autonomie, vous avez aussi des sites. Donc maintenant, vous avez énormément de pistes et de choses à faire. Ceux qui souhaitent rester un petit quart d'heure avec nous pour nous poser des questions plus précises sur le cycle 3, voir des documents ou je ne sais trop quoi, on reste à votre disposition, on reste là sur le temps du midi pour répondre à toutes vos questions.
Si, je peux vous laisser parce que
voilà.
C'est ça que vous n'avez pas, je crains que c'est douchant sur le...